Bonsoir et merci d'être venus si nombreux déjà, ce qui déjà est une preuve de l'intérêt que nous sommes en droit de porter au thème qui nous réunit ce soir. C'est vraiment une question vitale, sans faire de mauvais jeu de mots rapidement. Je dois vous dire que pour nous, c'est toujours un plaisir d'intervenir dans l'espace Mendes France, compte tenu du partenariat avec notre association, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et nous avons toujours le même type d'accueil et le même type de service, vraiment parfait. Donc, merci à toute l'équipe et à la direction de cet espace Mendes France. Et surtout, merci à tous les intervenants qui sont ici présents, qui ont bien voulu, avec des journées dont on imagine la surcharge, être présents une partie de la soirée également, avec vous, avec nous. Je vais vous les présenter très très rapidement parce que je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Et je vous dirai aussi très brièvement comment nous pourrons peut-être fonctionner pour cette tentative de, alors je vais le dire en série, conférence, table ronde, débat. Ça sera un bon exercice et peut-être inhabituel pour un certain nombre, disons, de critères et de raisons dont je parlerai après. Alors, il n'y a pas d'ordre hiérarchique parmi nous, mais donc vous avez le docteur Bakary Diallo, qui est responsable du centre d'études et de traitement de la douleur au CHU de Poitiers. Le docteur Bernard Senet, qui d'une part a été l'un des fondateurs de l'unité de soins palliatifs d'un hôpital local à Lille-sur-Sorgue et qui est par ailleurs membre de la commission médicale de notre association, l'ADMD. Il y a Laurence East, qui est psychologue dans l'unité de soins palliatifs au CHU de Poitiers, CHU où l'unité de soins palliatifs est sous la responsabilité du docteur Laurent Montaz, qui est donc à l'extrémité de cette table. Et vous voyez que déjà des mots clés, douleur, soins palliatifs, ont été prononcés. Il faudrait en dire encore d'autres mots-clés, n'est-ce pas? En particulier, le souci que nous avons d'une loi qui nous permette enfin de bénéficier de ce que nous appelons une aide active à mourir dans certaines situations cruciales, bien déterminées. Nous en reparlerons. Bon, puis il y a votre serviteur qui, dans une vie antérieure, était professeur des universités en sciences et qui s'est réincarné en co-délégué pour la Vienne de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, dont la déléguée est ici présente et Colette Audinet. Voilà. Bon, je dois, pour commencer, excuser l'absence du sénateur Alain Fouché qui m'a téléphoné, je dirais, en catastrophe, pour me dire qu'un point quand même très important pour tout le monde, qui est le budget de la sécurité sociale, se prolonger à Paris, au Sénat, le temps du débat. Donc il ne pouvait pas être là ce soir à temps pour la conférence débat table ronde qui est là. Mais je collabore avec lui depuis suffisamment longtemps pour savoir, et il me l'a confirmé, les quelques points sur lesquels il aurait aimé insister s'il avait pu être présent. Et évidemment, ce sont notamment des points juridiques, d'une part, et d'autre part, ce sont des points, je dirais, des paroles d'espoir que je me ferai un plaisir de vous transmettre de sa part. Alors, on va en venir, puisque je ne serai qu'un intervenant parmi les cinq qui sont là, enfin intervenant au titre de la DMD pour moi et du sénateur Alain Fouché à sa demande. Je vous propose la stratégie de déroulement de la soirée suivante. C'est une conférence. Elle va être très brève dans la mesure où chacun d'entre nous ici a accepté la règle du jeu suivante. Chacun d'entre nous va tenter entre 5 et 10 minutes, ce qui est vraiment très peu. Il vaudrait mieux que ce soit 5 que 10, mais il y aura quand même la souplesse. De dire le noyau dur de ce qui lui paraît fondamental sur le thème dont vous avez tous lu le titre, n'est-ce pas ? Souffrance insoutenable en fin de vie, quelle réponse médicale ? Point d'interrogation. Quelle réponse juridique ou légale ? Point d'interrogation. Après que ces mini-conférences, textes de conférences, auront été prononcés par les cinq personnes ici présentes, la table ronde entre eux, qui est linéaire d'ailleurs, commencera, c'est-à-dire que Oui, je dois vous dire, nous ne sommes pas forcément tous les cinq ou tous les six, en l'absence du sénateur Fouché, du même avis. Je sais qu'on peut aimer, dans certains cadres associatifs, ne tenir qu'un seul discours non contradictoire, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas débat, de toutes les façons. Ça n'est pas notre philosophie. Dans la DMD, nous sommes prêts non seulement à assumer, mais à souhaiter le débat. Et il apparaîtra peut-être que certains d'entre nous ont le souci de réagir par rapport à ce que d'autres d'entre nous auront dit. Donc là, on consacrera peut-être, on va dire, une demi-heure encore à cette table ronde, n'est-ce pas, entre l'ensemble des cinq intervenants, représentant six intervenants ici, n'est-ce pas? Et enfin, on en arrivera, je crois, à une partie essentielle qui motive, je vois d'ailleurs là, le nombre du public ici présent, on arrivera à l'essentiel qui, pour nous, bien sûr, est de vous donner la parole. Il y aura un micro, celui-ci, qui circulera dans la salle, et vous poserez toutes les questions que vous souhaiterez poser, soit à l'une ou l'un d'entre nous bien identifiés, vous aurez le droit de poser votre question à telle ou telle personne, ou vous pourrez la poser à la cantonade, et évidemment, c'est parmi nous que se dégagera la parole la plus susceptible de répondre à la question posée. C'est un exercice un peu périlleux. Chacun va se sentir frustré, chacun d'entre nous ici, parce qu'on aura eu très peu de temps pour défendre les idées que nous avons, et vous tous, parce qu'évidemment, il y aura énormément de questions que vous souhaiteriez encore poser, mais on sera expulsé à 22h30, 22h45, n'est-ce pas, dernière limite. Alors, on assume toutes ces frustrations. Et si vous le voulez bien, on commence aussitôt. Alors, je vous disais, il n'y a pas d'ordre hiérarchique entre nous tous. Le docteur Bakary Diallo est à ma droite. Je lui donne la parole, ou avec le micro, là, comme vous voulez.
Merci, monsieur le professeur Gommel. Effectivement, il y a très longtemps qu'on se connaît. Il y a des dizaines d'années maintenant que nous avons eu l'occasion de discuter ensemble. Parler de souffrance insoutenable et de fin de vie, quelle réponse médicale? Quelle réponse légale? Comme je suis bien élevé, je vais d'abord passer la parole à Laurence East. Honneur aux dames.
Alors, je m'en doutais un peu. Je me suis dit, voilà, je suis la seule femme de l'Assemblée. C'est à peu près sûr qu'on va me donner la parole en premier, connaissant votre galanterie, messieurs. Alors d'abord, avant tout, merci au professeur Gommel de m'avoir convié à cette conférence débat. Une place qui n'était pas forcément identifiée comme justifiée. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui prépare des textes. Je suis pas quelqu'un qui lit des vérités parce que je crois pas à la vérité. Je crois pas à des vérités universelles. Alors du coup, je prépare rien. Par contre, il y a quelques jours, on a eu l'occasion de m'envoyer un poème de Paul Éluard. Alors, je pense que ça peut être une bonne introduction. Je pense que vous le connaissez. Il s'appelle « Et un sourire ». Alors, si vous permettez, je vais vous le lire. Et puis après, je passerai la parole à quelqu'un d'autre qui n'est pas une femme. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie, à se partager. Merci, monsieur Éluard. Messieurs,
bonjour. Bernard Senet, donc j'étais médecin généraliste pendant 35 ans dans un petit village de Vaucluse et je participais d'emblée à une activité dans un hôpital qu'on appelait rural. Après, c'est devenu un hôpital local. Et compte tenu de l'importance de la problématique de la fin de vie en milieu rural, on essaye de garder peut-être encore plus les gens à domicile parce que c'est souvent plus facile puisque les familles sont moins détériorées, moins détachées que dans les milieux urbains. Assez rapidement, j'ai été intéressé par ces problèmes de fin de vie. j'ai eu à en gérer. Et puis, avec un de mes collègues médecins, on a donc créé cette unité de soins palliatifs dans un hôpital local qui, après, sont devenus des lits identifiés de soins palliatifs, parce que ça, c'est tout un tas de problèmes de réglementation sur lesquels je ne voudrais pas m'étendre. J'ai milité à la DMD rapidement parce que j'ai été amené, comme je pense tous les médecins, à aider des gens à mourir et que, bien entendu, on le faisait et on le fait toujours dans la plus grande clandestinité, puisque vous savez que c'est interdit, que aider à mourir en France est encore un meurtre avec préméditation, donc c'est passible de la cour d'assises. Et je pense que beaucoup de médecins comme moi ont aidé des gens à mourir et devraient avoir été présentés devant la justice. Alors, en fait, la DMD, quand elle a été fondée, elle avait quatre objectifs. Elle avait un premier objectif qui était la prise en charge efficace du traitement de la douleur. On est le seul pays au monde, à ma connaissance, où il a fallu une loi, la première loi Kouchner, pour arriver à ce que pour obtenir du corps médical de traiter efficacement la douleur. Vous savez qu'on était très en retard dans la prescription des antalgiques majeurs, notamment de la morphine. Et finalement, on a progressé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on voit encore arriver dans les services de soins palliatifs, enfin dans celui où j'ai travaillé, on voit encore arriver des gens qui sont mal soulagés, qui ont été insuffisamment traités, qui viennent quelquefois de services hospitaliers, de CHU. Pour ce qui me concerne, c'est des gens qui viennent de Nîmes ou de Marseille. Et donc le traitement efficace de la douleur n'est pas encore quelque chose de bien codifié, malgré les progrès de formation qu'il y a eu au niveau du corps médical. Le deuxième objectif de la DMD, c'était le refus de l'acharnement thérapeutique, ce qu'on va peut-être plus appeler l'obstination déraisonnable, c'est le terme officiel, mais bon, le refus d'acharnement thérapeutique, ça parle plus aux gens. On a eu pour ça la loi Leonetti, qui est en fait, si je parle un petit peu vite, une loi qui permet aux médecins, à la demande des patients ou de la personne qui les représente, d'être assistés dans des soins, le fait qu'on ne donne plus de soins pour maintenir la personne en vie de force, mais en arrêtant les traitements, on sait qu'on va accélérer l'heure de la fin. Bien entendu, il y a une grande discussion avec M. Leonetti notamment sur est-ce que le fait d'hydrater ou d'alimenter, c'est un traitement, donc c'est défendu comme étant un traitement. Et bon, ça peut se discuter. Moi, je n'ai pas l'impression que quand je bois ou quand je mange, je me soigne. Mais donc, on peut arrêter, après une procédure à suivre, l'alimentation, puis l'hydratation d'un patient qui est maintenu en vie uniquement par ça. Et du coup, la personne décède. Ce n'est pas toujours très rapide. Ce n'est pas toujours la meilleure méthode. Et on sait très bien que les médecins, étant dans l'ensemble des braves gens, ils aident les gens à partir en utilisant ce qu'on appelle des sédations en phase terminale, dont on trouve les recettes dans tous les bouquins de soins palliatifs. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les traités de soins palliatifs, on vous donne la recette pour aider les gens à partir. Et je trouve que c'est très bien. Je pense qu'il n'y a pas de honte à ça. Mais ça veut dire qu'on fait quelque chose qui est interdit. Hein. C'est bien le problème. Troisième objectif de la DMD, c'était que la parole du patient soit respectée. Ou que le patient puisse mandater quelqu'un pour parler à sa place quand il ne peut plus parler, par exemple, s'il est dans le coma ou s'il est atteint d'une aphasie. La loi Kouchner, c'est la deuxième loi Kouchner, c'est une loi qui permet en fait de respecter la volonté des gens. Alors, le problème de la loi Kouchner, qui a été votée deux ans en 2003, deux ans avant la loi Leonetti, c'est que dans la loi Kouchner, la personne peut, normalement, ce qu'écrivait la personne était valable et s'imposait au corps médical, ou ce que disait la personne qui le représentait. Quand la loi Leonetti est arrivée deux ans plus tard, on a rendu au corps médical la décision in fine. C'est-à-dire que le médecin, le corps médical, l'équipe médicale doit s'appuyer sur ce que le patient a écrit ou sur ce que dit sa personne de confiance, mais la décision finale revient à l'équipe médicale. C'est-à-dire que l'équipe médicale peut être amenée à ne pas respecter complètement ce qui a été antériorisé. C'est très important, ça, parce que ça a un petit peu réduit, si vous voulez, le poids de la volonté du patient qui était dans la loi Kouchner. Quatrième objectif de la DMD quand elle a été créée, c'était donc l'euthanasie, c'était la légalisation de l'euthanasie. Donc la légalisation de l'aide active à mourir à la demande de la personne ou de la personne qui la représente, bien entendu. Je crois qu'on a heureusement maintenant dépassé tous les débats euthanasie, nazi, eugénisme, etc. Je crois qu'il faut sortir de ça. C'est malheureusement, il y a 20 ans, quand je faisais des interventions, je me suis fait traiter plus d'une fois d'assassin. Le débat n'est plus là. Mais tout de même, vous savez que plusieurs pays ont légalisé, notamment les Pays-Bas en premier, puis la Belgique, puis le Luxembourg, puis l'Oregon, la Géorgie, etc. Enfin, ça, je vous le donne dans l'ordre chronologique. Les pays où la légalisation a eu lieu n'ont pas été des pays où on s'est mis à tuer beaucoup plus de gens. Les médecins ne se sont pas mis à achever plus de patients. Les études statistiques qui sont faites montrent que vous avez dans la population à peu près 10 à 15% de personnes qui se préoccupent de leur fin de vie et qui donc écrivent leurs directives anticipées. Et vous avez à la fin, dans les pays où on fait bien les comptes, et des pays assez importants comme la Belgique ou les Pays-Bas, où on fait ça sérieusement, on arrive à entre 1,7 et 1,8% des gens qui sont aidés à décéder. Ce qui fait que, compte tenu du nombre de décès qu'on a en France, excusez-moi, qui est de 600 000 à peu près, on arriverait à 9 500 aides actives à mourir par an. Vous voyez, ça ne représente pas un chiffre énorme. Donc le discours qui dit, si on fait une loi, on va ouvrir la boîte de Pandore et on va se mettre à... Les médecins vont se mettre. Non, pas du tout. Par contre, la loi a un énorme intérêt, c'est pour les gens qui ne veulent pas être aidés à mourir. Parce qu'actuellement, il ne faut pas se cacher, on aide des gens à partir, pour des tas de raisons. Dans des services d'urgence, vous savez qu'il y a actuellement l'histoire du docteur Bonne-Maison, dans des services d'urgence où on est quelquefois fatigué, où on voit arriver des gens en très mauvais état, des gens très âgés, des gens non accompagnés, il y a des médecins qui prennent des décisions d'aider à partir. Dans des situations quelquefois de serment, dans les activités que j'aime bien, je fais souvent de l'assistance à des courses de montagne. Je me suis déjà retrouvé avec des blessés graves qui avaient besoin de respirateurs, qui avaient besoin de matériel. Vous ne pouvez pas les emmener à Marseille en hélicoptère, vous les emmenez à Briançon, et Briançon, vous arrivez dans un service de réanimation qui est déjà plein. C'est-à-dire que tous vos respirateurs sont pris. Et vous avez dans les mains un gars de 25 ans, qui est sportif, qui a priori peut se sortir de son accident. Et qu'est-ce qu'il fait le réanimateur? Il prend la décision rapide de débrancher quelqu'un pour utiliser le respirateur. C'est des décisions qui sont prises, c'est-à-dire qu'on prend la décision d'arrêter la vie de quelqu'un parce qu'on ne dispose que d'un appareil, enfin pas de suffisant de matériel, et on donne comme ça la possibilité à quelqu'un qui a plus de chances de s'en sortir. La loi a aussi un intérêt, parce qu'à ce moment-là, on sera obligé, le médecin actuellement, il n'est pas obligé de dire pourquoi il le fait, de l'écrire. Il le fait, mais il n'est pas obligé d'en rendre compte. S'il y a une loi, il est obligé d'en rendre compte, puisqu'il fait un geste qui entraîne la mort. Il y a une étude qui est maintenant un peu âgée, qui a une dizaine d'années, qui a été faite par les Anglais sur les services de réanimation en France, sur certains services de réanimation, et qui est arrivé à une conclusion très intéressante. Dans un service de réanimation, un décès sur deux, malheureusement on décède beaucoup dans les services de réanimation, un décès sur deux est le fait d'une décision médicale. Soit on n'a pas rajouté un appareil qui devenait nécessaire, une dialyse par exemple, soit on a débranché un appareil parce qu'on en avait besoin ailleurs, soit on a pris la décision parce que l'équipe, la famille a poussé à, et on a pris la décision d'arrêter, de prendre une décision médicale qui mette fin à la vie. C'est-à-dire qu'un décès sur deux en service de réa, selon cette étude, c'est bien parce que c'est des Anglais qui ont fait une étude sur la France. Vous savez qu'on n'est jamais mieux observé que par des étrangers dans tous les domaines. Hein. Et cette étude montre bien qu'on prend des décisions de mettre fin à la vie des gens. Et je crois que c'est bien. Je pense que l'euthanasie qui est un compagnonnage humain qu'on pratiquait sur les champs de bataille. Hein, sur les champs de bataille, quand on voyait qu'un blessé était trop blessé et qu'on ne voulait pas le laisser souffrir, on lui donnait l'extrême onction. Bon, je ne sais pas si ça sert toujours, mais on lui donnait un verre de rhum et on l'aidait à partir. Et c'est du compagnonnage humain. C'est pas de l'assassinat. Et je crois qu'on est dans la même situation quand on aide quelqu'un à partir. C'est quelqu'un qui est au bout du soin, qui vous l'a demandé, qui sait qu'il ne peut pas s'en sortir, qui a la volonté de partir, et vous l'aider à partir médicalement, proprement, en conscience, avec son accord, de préférence dans les meilleures conditions que vous pouvez. On l'a tous fait. Moi, j'ai commencé mes études dans un service de neurologie, la Pitié, où il y avait des malades dans des états dramatiques. Et c'était souvent les infirmiers, les internes qui prenaient la décision d'aider les gens à partir. Donc voilà, je pense que cette loi, on va l'avoir parce que nos voisins l'ont. Je pense que le fait de travailler en soins palliatifs n'est pas du tout contradictoire avec le fait de promouvoir l'aide active à mourir de quelqu'un. On fait un dernier soin, si vous voulez. Je vais pas trop long. Merci.
Je vous en prie. Bien, mais rebonsoir. Hein. Alors, le thème souffrance insoutenable et fin de vie. Souffrance insoutenable, ça veut dire quelque part que nous n'avons pas été très bons au niveau médical. Ça veut dire que la prise en charge, si elle avait été adaptée dès le début avec une écoute attentive, on n'en serait pas au terme de souffrance insoutenable. Ce n'est pas un problème nouveau. En réalité, dans le code de déontologie médicale, il y a plusieurs articles qui indiquent ce qu'il faut faire quand un malade est en difficulté. L'article 37 parle du soulagement des souffrances avec limitation ou arrêt des traitements. Et l'article 38 du code de déontologie parle des soins aux mourants et éventuellement de l'euthanasie. C'est une discussion ouverte. Donc on en parle depuis très longtemps. Puis au moment de Kouchner, donc, la loi du 4 mars 2002, il a été discuté du droit de la personne, protection de la santé, respect de la dignité, respect de la vie privée et secret des informations, recevoir des soins les plus appropriés et traitements dont l'efficacité est reconnue, recevoir des soins visant à soulager la douleur. Et puis, en 2005, est arrivée donc la loi Leonetti, et vous vous apercevez ainsi que, finalement, dans le parcours de la prise en charge de la douleur et du soin palliatif, la Vienne est bien placée quelque part. Parce que, au moment de la loi Leonetti, le Premier ministre s'appelait Jean-Pierre Raffarin. Et ici, le maire de Poitiers participe au Comité national d'éthique. On aurait peut-être pu l'inviter ce soir.
Il était invité, il s'est excusé.
D'accord. D'accord. Alors, pour la loi Leonetti, je ne suis pas un spécialiste de ce texte de loi, puisque je m'occupe du centre de traitement de la douleur. Il est indiqué de façon claire qu'il y a une interdiction de l'acharnement thérapeutique, que le risque est permis, c'est-à-dire que le médecin, avec l'accord du patient, peut prendre des risques dans l'administration de traitements antalgiques nécessaires, et il n'est aucunement admis de provoquer délibérément la mort. Le droit au refus du traitement est un droit du malade. On doit tenir compte de ces directives anticipées, je pense que le docteur Monteurs en parlera tout à l'heure. Il y a le concept de la personne de confiance. Une personne de confiance peut être désignée par le malade. L'avis de la personne de confiance, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées dans la décision prise par le médecin. Et il y a surtout le fait qu'il y a une notion qui est un travail multidisciplinaire. Il y a une procédure collégiale de décision avec discussion d'équipe pour décider que le malade est au centre du projet de soins, que ses proches sont au centre du projet de soins et que tous ceux qui gravitent autour, les soignants, les médecins, les accompagnants, doivent tenir compte de ce qui est le mieux pour le malade. Et le concept est de dire, il faut faire pour le malade ce qu'on aimerait qu'il soit fait pour nous quand on sera en fin de vie. Donc la discussion reste ouverte. Le problème de la discussion d'un avis ou de l'autre, c'est un discours, c'est une discussion qui est un problème de société. Et je serais content de savoir votre avis là-dessus. Personnellement, je vous donnerai mon avis tout à l'heure, mais je pense qu'il est bon d'entendre ce que vous vous direz. Voilà, merci.
Merci. Bonsoir. Monsieur Gommel, merci de m'avoir invité. J'avais rien préparé de spécial, effectivement, plus pour répondre un petit peu aux interrogations. Et puis, en fin de compte, grâce à votre intervention, cher confrère, forcément, il y a des choses qui sont revenues. Alors, aider à mourir, moi, je voudrais savoir ce que c'est. Parce que oui, tous les jours, dans le service, nous aidons des gens à mourir. Et nous n'avons pas honte de le dire haut et clair. Et cela, depuis des années, nous aidons des gens à mourir. Enfin, le service n'est pas si vieux que ça, mais même dans nos différents services. Qu'est-ce que c'est qu'aider à mourir ? Est-ce qu'une mère qui est là pour accompagner son enfant lorsqu'il va mourir, elle aide son enfant à mourir ? Alors je crois que dans vos propos, ce que j'ai entendu, c'était une aide, j'allais dire, peut-être plus active. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous en disant attention aux termes, etc. Ce que j'ai entendu, c'est peut-être une aide active. Alors, je ne sais pas, mais je vais vous dire ce que je vis depuis 30 ans. Je n'ai jamais, jamais, jamais aidé activement quelqu'un à mourir. Alors, je ne suis pas là pour dire, regardez mon auréole, elle est belle. J'en ai rien à cirer de ça. Mais je n'ai pas eu le besoin ou les circonstances, ou je ne sais pas, enfin voilà, pourtant, nous sommes confrontés à des douleurs insoutenables, mais nous n'avons jamais eu besoin dans le service à pousser un produit qui accélère la mort. Voilà, ça c'était déjà le premier point, mais je crois que le débat là, nous y amènera à revenir là-dessus. La deuxième chose, alors je voudrais tordre le cou à quelques éléments, c'est pas parce que la Belgique, la Suisse, l'Oregon, etc. prônent une loi pour l'euthanasie que le nombre fait la qualité. L'histoire montre bien que quelquefois des pays ont été promoteurs de certaines idées, qu'ils ont pu les transmettre à d'autres pays, et pourtant, l'histoire montre a posteriori qu'ils n'ont pas toujours eu raison. Donc c'est pas le nombre, c'est pas parce que les voisins le font que c'est une bonne chose. Nous, en France, c'est vrai, on n'a pas opté pour cette loi-là, on a opté pour une loi d'accompagnement, la loi Leonetti, que je considère comme très, très bien faite. Alors je voudrais savoir pour cela combien de personnes dans la salle ont fait leur directive anticipée. Il y en a. Voilà. Vous avez donc écrit ce que vous souhaitiez. Alors, ça fait combien, ça ? Une dizaine sur 100 personnes, 60... Bon, enfin, bref. Donc, quinzaine. Allez, 20. Ça fait peu, quoi. Ça fait peu. Hein. Ça fait très, très peu. Et pourtant, dans ces directives... Alors, vous voyez, il y a une loi en France qui existe, la loi Leonetti, et qui nous encourage à écrire des directives anticipées. Et nous sommes très peu à l'avoir fait. Très, très peu. On peut dire dans ces directives ce que nous souhaitons, ce que nous ne souhaitons pas, jusqu'où nous voulons aller, etc. Alors, la loi, il faut non seulement la connaître, mais peut-être cette loi-là, déjà de se dire, bah, au fait, moi, là, dans mon coin, où j'en suis, qu'est-ce que je fais ? On peut la critiquer, et d'ailleurs, on est là pour ça aussi, mais critiquer dans tous les sens. Mais il faut déjà la comprendre, la connaître, essayer de savoir ce qu'elle recèle, il faut savoir l'appliquer. Les personnes de confiance, le brouhaha à l'hôpital, on ne sait même pas globalement ce que c'est qu'une personne de confiance. Alors, est-ce que c'est la personne qu'on doit prévenir en cas de décès ? Est-ce que c'est la personne qui va donner un avis sur comment était la personne, etc. Mais je vous en prie, allez déjà voir cette loi. Allez vous y confronter. Elle est riche, cette loi. Elle est extrêmement riche. Elle est nuancée. Ça, c'est autre chose. Bien sûr, j'aurais beaucoup à dire sur la nutrition, l'hydratation, sur l'arrêt des traitements, sur la volonté du patient. Nous avons une jeune dame qui avait un cancer qui était tout à fait abordable, hein, tout à fait abordable il y a quelques années. Tous les critères étaient positifs et elle a voulu bénéficier d'un traitement par hyperthermie. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connais pas bien, ça se fait, semble-t-il, en Italie. Elle est partie en Amérique du Sud pour marcher, parce qu'en disant comme ça, qu'en marchant, elle a dépensé de l'énergie, des protéines, donc sa tumeur n'allait pas évoluer, etc. Donc cette dame est venue au bout de 3 ans, alors que c'était vraiment une tumeur très très abordable, hein, au niveau des marqueurs et tout, avec des métastases absolument partout. Et sa volonté à cette dame, en toutes circonstances, a été respectée. Bien sûr, elle a toujours été informée en disant « Attention, c'est des traitements qui ne sont pas validés. Attention, il y a peut-être autre chose, etc. » Sa volonté a été respectée. Donc, on a une loi qui est quand même très, très bien faite. Ensuite, Je vais vous inviter à surfer sur le mot insoutenable. Je voudrais savoir ce qu'il évoque, quoi. J'ai réfléchi à ça en disant, c'est quoi insoutenable, nom d'un chien ? Alors, je me suis dit, insoutenable, c'est on ne peut pas. Donc, on ne peut pas soutenir. Soutenir, donc, on ne peut pas tenir. Mais quand on ne peut pas tenir, ça veut dire qu'on ne peut pas porter, qu'on ne peut pas aider, qu'on ne peut pas continuer. Et puis soutenir, ça veut dire tenir peut-être par en dessous. C'est porter. On ne peut pas porter alors. Insoutenable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas porter. Mais en général, on ne se porte pas soi-même. On ne se soutient pas soi-même. Ce sont les autres qui nous portent la plupart du temps et qui nous soutiennent quand nous traversons une épreuve. Et dans le mot insoutenable, ce que j'entends en miroir, c'est peut-être cette absence. Parce que pour moi, quelque chose d'insoutenable, c'est l'abandon. C'est ne plus appartenir au clan humain. Ta vie ne m'intéresse pas comme vie humaine. Ma vie telle que je la projette dans mon imaginaire ou dans mon fantasme de patient, effectivement atteint d'une maladie grave et qu'on ne peut pas traiter dans l'état actuel des connaissances, eh bien effectivement, le pire, c'est l'abandon. L'abandon médical, l'abandon de ses proches, etc. On a besoin d'être soutenu. Et pour moi, quelque chose d'insoutenable, c'est quelque chose qui n'est pas soutenu, qui n'est pas porté par les autres. Or, la plupart du temps, Madame Is, qui est psychologue ici dans le service, ou même des quelques têtes que je connais bien, qui peuvent témoigner, nous avons des demandes d'euthanasie dans le service. Des demandes claires, nettes, précises, elles sont extrêmement rares. Sur 2 ans, je crois que nous avons eu 2 demandes très soutenues de demandes d'euthanasie. Et la plupart du temps, nous avons des demandes plus feutrées. Cette vie ne vaut pas le coup. J'en ai marre. J'en peux plus. Il faut me laisser partir, etc. Et on s'aperçoit que de se poser, que de soutenir, que de porter permet effectivement à la personne de se sentir apaisée. Et donc, ces paroles ne reviennent pas. Sur le premier aspect, je ne veux pas m'échapper à la première partie, c'est-à-dire à ces gens qui vont être dans une demande d'euthanasie. Cette vie ne vaut pas le coup, je ne veux pas me voir dégradé, je ne veux pas souffrir, etc. Eh bien, ce que je crois, c'est que la chance de ne pas avoir légalisé l'euthanasie en France, c'est laisser le temps. Vous allez me dire, mais vous êtes macabre de laisser le temps devant des souffrances insoutenables. Non, non, j'ai le même cœur que vous. Le même, hein. Pas mieux, mais pas moins bien. Et j'aime pas la souffrance. Mais par contre, ce que je crois et ce que nous avons vu, ce que nous pouvons témoigner, c'est que ces gens qui nous demandent, lorsqu'ils sont entourés, etc., ce qu'on a pu avoir comme preuve, c'est qu'en leur donnant le temps, eh bien, on voit des changements d'attitude, des changements de demande, parce que la vie, elle est là. Et nous qui fantasmons parce que nous sommes des bien portants, ou parce que malheureusement, certains d'entre nous ont vécu des cauchemars avec des familles, ou quand ils ont accompagné des proches. Oui, c'est vrai, et ça, faut pas le nier non plus. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, quand on fait un accompagnement, et ça, ce n'est pas l'accompagnement d'un médecin, c'est jamais possible, les soins palliatifs avec une personne. C'est une équipe, mais c'est une équipe avec une famille, des proches. Eh bien là, effectivement, même des demandes très, très fixées d'euthanasie, on peut les soutenir, on peut les porter, et on a vu combien de fois, sur ces 2-3 cas, combien de fois, pardonnez-moi, ces 2-3 cas, changer littéralement en disant « mais je ne savais pas que je pouvais encore vivre même ça » et faire partie du groupe humain. Merci.
Je vais prendre très brièvement la parole à 2 titres. Je commencerai par vous transmettre de la part du sénateur Alain Fouché, avec à nouveau ses excuses renouvelées pour cette absence forcée compte tenu de l'activité au Sénat. Vous dire que vous vous souvenez sans doute qu'il a été à l'origine d'un projet de loi visant effectivement à ce que l'aide active à mourir puisse être légalisée en France. Alors j'ai vu que Bernard Sonnet peut-être prenait quelques notes quand Laurent Montaz parlait, j'en ai pris également mentalement. Il y aura, je pense, le débat table ronde qui va suivre, qui nous permettra, je pense, d'échanger là-dessus. Mais je reprends ce que je disais à propos de cette loi proposée par le sénateur Fouché. Vous savez qu'il y a eu en 2009 à l'Assemblée nationale, il n'a manqué qu'une soixantaine de voix pour que cette loi soit prise. Bon, nos représentants n'étaient pas assez nombreux à ce moment-là, semble-t-il, pour qu'elle puisse passer. Puis plus récemment, il y a eu, et le sénateur Fouché tenait à le préciser, la preuve qu'à travers des sensibilités politiques différentes qui peuvent s'affronter par ailleurs sur beaucoup de sujets, ce sujet de société tel que l'a évoqué le docteur Diallo a réussi à passer à travers les différentes sensibilités politiques pour arriver au Sénat à ce que, malgré des pressions du pouvoir exécutif bien connues, il n'ait manqué que 15 voix pour que cette loi passe, parce qu'elle a obtenu le soutien de personnes qui ont reconnu, disons là, un besoin de la société de faire ce petit pas en avant que nous attendons un certain nombre d'entre nous, on n'est que 94% en France à le faire, que nous attendons encore. Et le sénateur Fouché donc voulait rappeler le fait que le 25 janvier dernier, ça a été une espèce de consensus diagonal avec malheureusement encore quelques voix qui manquaient. Il voulait également parler de son espoir pour les mois ou années à venir, c'est-à-dire il avait la certitude que les mentalités évoluent clairement, il le constate autour de lui, et il tenait donc à dire son espoir de voir en 2012, 2013 peut-être, cette loi qu'un certain nombre d'entre nous attendons, voir le jour. Voilà, donc là j'espère avoir été fidèle à ce qu'il m'a exprimé au téléphone et il me disait que c'était les points sur lesquels il serait notamment intervenu ce soir au plan juridique, puisque pour que la clandestinité évoquée par le docteur Senet cesse, pour que ces actes qui ne sont pas voulus par certains et qui sont néanmoins subis, faute de loi pour encadrer, et pour que un refus cesse d'être opposé, en contrepartie, à un certain nombre d'entre nous qui ont besoin de cet acte final de compassion, eh bien, il faut bien qu'une loi apparaisse pour introduire la clarté, pour introduire enfin un peu de rigueur dans ce que rappelait le docteur Senet, c'est-à-dire dans ce qui se fait. Il y a peut-être une exception dans le service des soins palliatifs, pas seulement de Poitiers d'ailleurs, vraisemblablement, mais juste une parenthèse. Alors maintenant, vous vous êtes rendu compte que c'était le co-délégué de la DMD qui parlait. Curieusement, il y a dû y avoir quelques indices. Alors il termine sa propre intervention parce qu'il désire parler moins longuement que les médecins qui sont là. Il faut quand même se souvenir du fait que nous ne pouvons plus accepter, nous ne pouvons vraiment plus accepter le paradoxe suivant. La loi que nous demandons ne serait imposée à personne d'autre qui ne tient pas à en bénéficier. Au nom de quoi une minorité continuerait par contre d'empêcher celles et ceux d'entre nous qui tiennent à bénéficier de cette loi d'en bénéficier. Là, il y a un paradoxe de démocratie même qui se pose, qui est inquiétant. Et je terminerai, mais là c'est avec un regard en arrière sur ma vie antérieure de scientifique, c'est que pour un scientifique, jeter un regard sur les conséquences observables de cette loi dans les pays qui l'ont adoptée en moyenne une dizaine d'années avant nous permet, et c'est le cas de nombreuses études maintenant, avec le décalage de 10 ans, de constater que les fameuses dérives apocalyptiques qui nous étaient annoncées dans le cas d'adoption d'une telle loi n'ont absolument pas été observées. Et j'ajouterai, je terminerai là-dessus, que si on ne veut pas regarder à l'étranger, on peut quand même regarder les études qui sont faites en France. Et je vous avoue que j'ai été frappé par une étude récemment publiée. C'est une étude qui était pilotée par le docteur Ferrand, je crois, qui signalait que malgré les soins palliatifs et la qualité qui peut leur être reconnue, j'y reviendrai, il subsistait en France de façon persistante, réitérée, vraiment solide, pas des effets dépressifs du moment. 37%, c'est-à-dire entre une demande sur deux et deux demandes sur trois d'une aide active à mourir, même si on bénéficie de soins palliatifs. Dans un certain nombre de cas, ça se vérifie, c'est observé. On ne peut pas continuer à ne pas répondre à de telles demandes, ou sinon on ne comprend pas quelle est cette obstination à ne pas vouloir y répondre. Le paradoxe terminal étant le suivant, c'est que l'ADMD devrait changer de sigle. L'ADMD devrait s'appeler l'Association pour le développement des soins palliatifs. Ça apparaît très clairement dans tous nos documents. Et parce que ça ne s'oppose pas, c'est complémentaire. Ça n'est pas une question d'hostilité, ça n'est pas une question de conflit. C'est une association qui veut le développement des soins palliatifs. Le traitement de la douleur, c'est une nécessité évidente. Il y a eu un retard scandaleux en France là-dessus. Et pour la légalisation, dans des cas bien déterminés, contrôlés, vérifiés, etc., d'une aide active à mourir. Donc, selon nous, il peut y avoir matière à débat. La preuve, vous commencez à le voir apparaître. Mais pour nous, il n'y a pas de contradiction. Les soins palliatifs sont une nécessité absolue. Mais ce n'est pas parce qu'on est pour les soins palliatifs qu'il faut nécessairement s'opposer à ce complément que seuls certains d'entre nous demandent, sans vouloir les imposer aux autres, qui est cette demande d'une légalisation d'une aide active à mourir. Voilà, merci de votre patience. Alors, excusez-moi. Non, je voulais simplement dire que les exposés, entre guillemets, des intervenants ayant eu lieu, je viens d'en faire deux, un au nom du sénateur Fouché et un en mon nom propre, je propose, si vous le voulez bien, que la deuxième partie commence, c'est-à-dire que le débat au sein de la table ronde linéaire débute et d'ici une demi-heure environ, qu'il prenne fin pour vous donner la parole et qu'il vous reste assez de temps pour poser des questions. C'était la règle du jeu que j'ai proposée aux participants en entrant. Si vous voulez bien, on la respecte.
Je reprends mon droit de femme. Alors je vous ai dit que je croyais pas à des vérités universelles, mais par contre je crois à la justesse des mots, en tout cas à l'emploi du mot juste. Et pour moi, il y a aider à mourir, et dans aide active à mourir, j'entends donner la mort, et non pas aide, non pas aider à mourir, mais donner la mort. Et du coup, ça me renvoie donc non pas à une vérité universelle, mais à des interdits fondamentaux qui fondent notre société humaine. Il y a trois interdits fondamentaux. Interdit du cannibalisme, de l'inceste et de tuer. Et que serait une société où on aurait le droit de coucher avec sa sœur, de tuer son père, et l'autre, je vous ai dit, et de manger son frère. Comment on pourrait encore vivre dans une société qui ne serait pas fondée par ces trois interdits fondamentaux. Et c'est bien parce que on réprimande en nous ces pulsions-là qu'on peut vivre ensemble. Voilà ce que je voulais dire.
C'est un interdit que j'ai franchi et je ne me sens pas pour autant cannibale ni incestueux, ça je peux vous le promettre. J'ai bien compris, oui. Oui, mais je veux dire que, comme beaucoup de médecins, j'ai poussé des seringues. Je voudrais répondre, et puis après je reviens à cette notion-là. La loi Leonetti, effectivement, c'est une bonne loi. Enfin, on aurait pu faire mieux. On est les meilleurs promoteurs de la loi Leonetti. Hein. Je crois que la DMD, c'est nous qui en parlons le plus. Alors, je crois qu'il n'y en a pas à avoir de reproches à ce niveau-là. Il y a une bonne nouvelle, tout même pour tous les gens qui ont levé la main tout à l'heure, c'est que les études sont très claires au Québec et en Belgique. Les gens qui ont écrit leur directive anticipée vivent plus vieux que ceux qui ne l'ont pas fait. Donc ceux qui ne l'ont pas fait dans cette salle, s'ils ont envie de vivre plus longtemps, ce qui est au sein de la DMD fondamentalement, viscéralement inscrit, comme tout le monde d'ailleurs, écrivez vos directives anticipées. Ça s'explique très bien. C'est quelque chose qu'on nous renvoyait souvent, nous disant ça ne sert à rien, etc. Et en fait, à partir du moment où elles sont respectées, et où vous savez que ça va être respecté, c'est évident que vous vivez plus vieux. Quand vous savez que le médecin à qui vous avez demandé, éventuellement le jour où il faudra, et où vous le voudrez, vous, hein, pas le médecin, être aidé, ou à partir, ou à ne pas aller à l'hôpital, ou, bon, vous vous battez mieux contre la maladie, vous battez mieux contre le cancer, contre la maladie qui vous attaque, parce que vous avez une espèce de contrat de certitude. Donc je crois que cette étude n'est pas du tout étonnante. Ces deux études qui sont récentes ne sont pas étonnantes. Donc ceux qui veulent vivre mieux et plus longtemps, écrivez en rentrant ce soir vos directives anticipées, adhérez à la DMD et faites-les. Je suis désolé, je fais la promotion, mais et envoyez-les à la DMD parce qu'on les recueille, on les centralise. Et pour les médecins conseillers comme moi, quand on est obligé d'intervenir auprès d'un service hospitalier, parce que ça fait partie de mon boulot, c'est bien quand j'ai des directives qu'on peut me les envoyer par Internet, si vous voulez. C'est important d'avoir ça. Pour ce qui est de la loi, je vous rappelle tout de même qu'en France, la première proposition de loi date de 1934. Donc ce n'est pas un débat tout à fait récent. Hein. En Grande-Bretagne, la première proposition de loi est en 1936. Enfin, c'est pour dire que c'est tout de même un débat qui est récurrent et que nos parlementaires... je ne vais pas rentrer ici dans la discussion de savoir pourquoi le Parlement ne vote pas cette loi. Il y a tout de même beaucoup de médecins au Parlement. Et quand vous votez une loi donnant l'autorisation d'obéir à la volonté des patients jusqu'au bout, vous enlevez aux médecins un peu de leur pouvoir. Et je crois que la notion de la résistance des médecins à donner la parole et surtout à obéir à ce que demandent les patients est une notion, enfin, on pourra en parler avec vous, ça vous intéresse. Mais je crois que c'est important. Alors après, l'idée qu'on ne soutient pas, alors moi je m'inscris en faux. Effectivement, les demandes d'aide à mourir active ne sont pas très nombreuses, je suis d'accord. À la louche, peut-être deux par an, quelque chose comme ça. Mais elles sont importantes à respecter, elles sont importantes à respecter parce qu'on est en fait dans l'accompagnement de quelqu'un. On n'est pas du tout dans l'abandon, on est au contraire dans l'accompagnement de quelqu'un. Quelqu'un qu'on a accompagné, c'est le fait d'avoir les deux casquettes de médecin généraliste et de médecin hospitalier qui m'ont permis de bien comprendre la différence finalement. Quand vous êtes médecin et que vous accompagnez quelqu'un tout au long de sa maladie, et qui peut, heureusement, pas forcément toujours heureusement, mais qui peut durer très longtemps, vous vivez les rechutes, vous vivez les récidives, vous convainquez votre patient d'accepter une nouvelle chimiothérapie, une nouvelle intervention. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes tout le temps à côté de lui. Il y a un moment où vous dites non, là, je suis arrivé là où je vous avais dit que je ne voulais pas aller plus loin, et là, vous, maintenant, aidez-moi. C'est-à-dire que vous êtes dans la continuité d'un accompagnement de soins. Et vous n'êtes pas du tout dans un acte répréhensible. Enfin, je ne vois pas du tout. Enfin, je le vis pas comme ça. Et je ne comprends pas comme ça. Je le comprends comme le dernier soin, si vous voulez. Vous allez vous accompagner quelqu'un jusqu'à son dernier soin. Un petit mot, je reviens pour les directives anticipées, mais ça revient le problème. Vous donner une personne de confiance. Dans le service de soins palliatifs où je travaillais, on a vu arriver une fois une dame avec une hémiplégie qui la rendait aphasique, donc elle ne pouvait plus s'exprimer. Elle avait avec elle un fils unique qui admirait beaucoup sa mère. Bon, sa mère était une résistante, militante du Parti communiste, militante de la libre-pensée, vous voyez, quelqu'un de très engagé. On a su après qu'elle était à la DMD. Et elle voulait nous dire des choses, mais elle n'arrivait pas à nous les dire puisqu'elle était aphasique, on n'arrivait pas à les comprendre, on n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle voulait nous dire. Son fils s'enfermait dans le mutisme, et puis il était très malheureux de voir sa mère dans cet état-là. Et il a fallu qu'on voie arriver la copine de sa mère, qui était le même genre de militante, vous voyez, le genre un peu pénible, quoi, vous comprenez ce que je veux dire, quoi, enfin, des syndicalistes qui ont dû être durs à vivre. Et c'est la copine qui a dit, mais il y a son testament de vie, enfin, il y a les papiers, elle demanderait... Donc elle a sorti ce document... Elle, la copine qui avait vécu avec elle des trucs, elles avaient combattu des choses ensemble, elle a sorti le document, on a enfin eu ce document, que le fils n'avait pas le courage de nous sortir. On peut comprendre, si vous voulez, que le fils n'ait pas pu le sortir. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous désignez une personne de confiance, prenez quelqu'un qui, au moment où il faudra prendre des décisions difficiles, pas qu'une décision d'euthanasie, évidemment, d'autres décisions, soit peut-être pas trop proche, effectivement, de vous, soit pas trop dans la détresse à ce moment-là, soit quelqu'un qui a un certain recul. Bon, il faut prendre quelqu'un... Moi, j'ai pris comme personne de confiance deux copains médecins, et puis tout de même, les médecins, je ne leur fais pas une confiance totale, donc j'ai un vieux copain instit avec qui j'ai beaucoup milité, et je sais que lui, il saura faire entendre ma voix si je ne peux plus la donner. Vous voyez, je crois que ça, c'est important. Réfléchissez bien à la personne à qui vous allez mettre... dans les mains de laquelle vous allez mettre un peu votre avenir, les décisions médicales. Ça, c'est important.
Moi, je suis médecin. Je pense que cette discussion, ce débat sur l'aide active à mourir ou l'accompagnement de qualité est un phénomène de société. Je reste persuadé que les choses vont évoluer comme ce qui s'est passé pour la peine de mort. Il y aura bien quelque part un jour des gens sensés qui vont prendre une décision qui sera la meilleure pour le plus grand nombre de la société. Il faut que ça reste démocratique. Pour ce qui me concerne, moi, je veux vous parler de mon vécu. Il y a longtemps maintenant que le centre de traitement de la douleur au CHU de Poitiers est né. Il est né le 3 janvier 89. Mais bien avant cela, Agnès Simon est assise en face de moi. Nous avons travaillé ensemble. On avait une réanimation en ORL. On avait donc les malades d'ORL, de stomatologie, de la grosse cancérologie ORL et maxillofaciale. Et je peux vous assurer qu'on a travaillé ensemble, on les a accompagnés, et je pense qu'on faisait un accompagnement qui était intéressant. Je n'ai pas le souvenir d'avoir aidé activement quelqu'un à mourir. Je n'ai pas ce souvenir-là en ORL. Ensuite, pendant de longues années, au contact du professeur Daban, avec qui nous avons travaillé, nous avons accompagné les gens. Et ce dont je suis persuadé, c'est que si on fait un accompagnement de qualité et qu'on soulage la douleur de façon claire et précise, et que la personne ait une bonne qualité de vie, les demandes d'euthanasie sont rares. Dans mon souvenir, et pourtant il y a longtemps que je suis médecin, puisque j'ai 63 ans et j'ai commencé ma médecine, j'ai passé ma thèse en 75, et je crois que j'ai vu beaucoup de malades, il me semble. Et dans mon souvenir, il me vient de façon répétitive que j'ai entendu, pas souvent, en tout, ça peut se compter sur les doigts d'une main, des gens qui m'ont demandé à les aider à mourir. Et j'ai entendu ce qu'ils ont dit. Je leur ai demandé du temps pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie, faire disparaître la douleur. Et souvent, on a réussi à faire disparaître la douleur. Faire disparaître la douleur, il y a plein de techniques. Il ne s'agit pas uniquement de tenir la main des gens, de leur dire de bonnes paroles et de leur dire on va vous donner des médicaments, vous allez boulotter tout ça, il y a d'autres techniques. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut, dans 95% des cas, voire plus, soulager les douleurs. Mais ce qui est important, c'est le respect de la personne qui est en face de vous. C'est le dialogue de qualité, le dialogue de vérité, chacun étant respectueux de l'opinion de l'autre. Et il me semble que quand il y a cette discussion-là, il y a cette qualité de relation, il est rare qu'il y ait des demandes d'aide active à mourir. J'ai eu la chance de parcourir par le monde des services qui sont très connus, qui sont des pionniers dans les soins palliatifs. J'ai eu la chance d'être un stagiaire dans le service de Maurice Abiven à l'hôpital de la Cité universitaire. J'ai été un des premiers élèves du diplôme de soins palliatifs à l'hôpital Paul Brousse, service créé par René Sebag-Lanoé, une des créatrices de Jalmalve. Et René Sebag-Lanoé donc a passé ensuite le service à Michel Salamagne, et c'est le service de soins palliatifs de l'hôpital Paul Brousse à Paris. J'ai eu la chance d'aller en Angleterre, d'aller en Irlande, et d'aller aussi au CESCO à Genève, le centre de soins continus, chez mon ami Charles-Henri Rapin, aujourd'hui disparu, qui est très connu dans le monde des soins palliatifs. Je pense que c'est cet humanisme-là, ce respect mutuel, que la discussion soit ouverte. Je ne pense pas que quelqu'un ait raison de façon définitive. Il faut savoir écouter l'autre. Moi, je suis un médecin, je suis africain d'origine. C'est vrai que si on regarde l'histoire de l'Afrique, il y a des jeunes gamins de moins de 15 ans qui tuent des adultes, qui ont des pistolets, des mitrailleuses, des choses qui font vraiment de dégâts. Mais dans la société traditionnelle africaine, le respect de la personne âgée, le respect de la façon dont les gens ont envie de finir, est fondamental. Et en Afrique, on ne tue personne en fin de vie. Cela dit, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Moi, je n'en sais rien. Je sais que simplement, chaque fois qu'on m'a demandé cela, j'ai agi autrement, j'ai écouté les gens, j'ai essayé de faire mon travail de médecin de façon correcte. Et très sincèrement, dans la majorité des cas, il y a peu de demandes d'aide active à mourir. Cela dit, Alain Fouché est mon ami. Je le connais bien. Je sais que c'est un homme de conviction. Maurice Gomel est un de mes amis. On se connaît depuis longtemps. Et je respecte son opinion. Je pense qu'il faut que le débat soit ouvert. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous aussi, vous pensez. Voilà, merci.
Merci. Je voudrais revenir sur quelques points effectivement que je viens d'entendre et que je partage totalement cette analyse sur la nécessité d'écouter les gens et sur le fait que les médicaments sont loin d'être les premiers traitements devant des souffrances insoutenables. Je partage tout à fait l'avis de mon confrère le docteur Diallo que les médicaments ne sont qu'un aspect de l'approche de ces souffrances-là. Mais qu'il en est de même que de tenir la main des gens n'est qu'un petit aspect de l'accompagnement. Vous pouvez tenir des mains pendant des centaines d'heures sans pouvoir soulager quelqu'un. Vous pouvez donner 3 tonnes de morphine sans le soulager pour autant. Il s'agit là d'une alchimie entre votre comportement, le comportement du patient, ses souffrances, la rencontre avec les vôtres, etc. Mais je veux dire, ça ne peut pas être traité uniquement par des cachous, ça ne peut pas être traité par une main, c'est un ensemble. Et ces gens ont besoin de toutes ces facettes. Ils ont besoin de l'aide-soignante, de l'infirmière, du kiné, ils ont besoin de la psychologue, ils ont besoin du médecin, ils ont besoin du cadre, ils ont besoin de tout le monde. Ils ont besoin de leurs proches. Combien de fois nous avons eu des gens dans le service qui nous faisaient des demandes en disant « Mais docteur, cette vie-là, ça ne va pas, je vais mourir, je le sais, alors il vaut mieux que ça s'arrête, je ne veux pas être une charge pour mes enfants. » En écoutant, c'est vrai, en se pesant, en écoutant, je me rappelle d'une dame cet été qui me disait « Non, mais là, je gâche la vie, je gâche les vacances de mes enfants. » Et donc, ce qu'on a fait, on a été chercher les enfants en disant « Au fait, est-ce que votre vie actuellement est gâchée, vos vacances sont gâchées ?» Non, pas du tout. Mais votre maman a l'impression que le fait d'être encore en vie, c'est ce que vous me disiez, j'ai demandé l'autorisation à la dame. Et ça vous gâche la vie. Les enfants disent, mais pas du tout, pourquoi tu dis ça, ça va pas, etc. C'est-à-dire que c'est comme nous, quoi. On part dans nos idées, dans nos fantasmes, ça y est, allez, ça tricote en haut, ça tricote, et on pense. Ben oui, mais souvent on pense de travers. Donc quelquefois, il faut écouter, puis revenir à de la réalité. Cette dame est restée avec nous, voilà, ça s'est passé. L'autre chose, c'est que je voudrais insister sur la notion des paradoxes. Je trouve ça extraordinaire, nous sommes remplis de paradoxes, et les gens en fin de vie ont aussi leurs paradoxes. Combien de fois on voit des gens, je me rappelle d'une autre dame, qui demandait en disant, non, écoutez, là, elle avait refusé chimio, radiothérapie, etc. Elle était venue dans le service en disant, bah, écoutez, oui, je veux bien venir dans le service, bon, enfin bref, donc elle est venue, puis au bout d'un certain temps, elle dit, moi, c'est bon, là, ça y est, j'ai vu mes enfants, mes papiers sont préparés, c'est bon, ça fait un mois que je suis avec vous, vous êtes bien gentil, mais ça y est, là, il faut que ça s'arrête, etc. Donc, un engagement très, très fort. Et puis, on lui a dit, bah oui, c'est vrai, on lui a dit, bah oui, mais non, on va pas pousser, hein, c'est pas possible. Donc, moi, elle m'avait convoqué en disant, oui, mais vous, là, vous pouvez peut-être quand même, vous avez tout ce qu'il faut, non. Voilà. Et pourquoi ? Donc on s'est posé. C'est vrai qu'on va se poser longtemps. On va écouter longtemps. Et cette dame, à un moment, bon, elle dit, bah, puisque c'est ainsi, je vais faire une grève de la faim. Donc, je reviens vers mon collègue là, en disant, oui, c'est violent aussi. Hein. Quelqu'un nous dit, oh, bah, moi, je vais faire une grève de la faim. Une grève de la faim, ça ne provoque pas de douleur, mais c'est quand même, psychiquement, c'est lourd. Et puis, pour les familles, c'est une détresse. Enfin, voilà, c'est plein de souffrances qui peuvent s'engendrer. Et au bout de quelques jours, tu pourrais peut-être mieux en témoigner que moi, Laurence. Au bout de quelques jours, cette dame, une aide-soignante, lui propose un thé. Elle dit, oh, oui, ça, je vais quand même prendre. Elle dit, oh, j'ai peut-être... Alors, l'aide-soignante, mais avec une grande gentillesse, dit, est-ce que vous voulez un petit peu de sucre ? Ah oui, ça va me donner de la force. Donnez-moi donc du sucre un peu, là. Et puis, schlac, elle a repris du sucre, et puis elle a repris à manger. Et puis la demande, elle est partie, alors que ça avait été une demande très, très importante. Elle avait écrit, on lui avait aidé à écrire sa directive anticipée. Parce que dans une même conversation, combien de fois on entend « il faut me faire mourir » Mais c'était la semaine dernière, un monsieur qui me disait « ah non, mais là, docteur, c'est bon, il faut me faire mourir, là, c'est pas possible. » Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, déjà, on va arrêter cette nutrition. Le pauvre monsieur, il avait une nutrition par jéjunostomie. Et donc, la première chose, bon, on va peut-être tout arrêter ça, parce que c'est vrai, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la nutrition, bah, c'est vrai que ça provoque plein de complications en fin de vie. Et que de l'arrêter, souvent, ça les soulage, les gens. Et ça, voilà, il faut... Voilà. Et alors, ce petit monsieur, j'ai dit, bah, écoutez, pour ce soir, si vous voulez, on va commencer par arrêter la nutrition, puisque de toute façon, vous n'avez plus envie de vivre. Ah non, ça, la nutrition, vous me la laissez. Hein. Vous ne pensez pas que... Voilà. C'est ce paradoxe, quoi. C'est ce paradoxe. Je veux mourir. Il faut que vous m'aidiez à mourir. Oui, mais attention. Non, ça, vous n'y touchez pas. Ce traitement, non, vous n'y touchez pas non plus. Ah bon, bon. Et à partir de là, on discute hein, sur ces paradoxes, sans se moquer. Comment serai-je en fin de vie ? Quelles seront mes demandes ? Je ne sais pas. Donc, ce que je vous raconte, c'est pas pour me moquer, bien loin de là. C'est que c'est pour vous dire qu'ils sont tellement proches de nous, ces gens, avec leurs propres paradoxes. Mais des paradoxes au niveau médical aussi. Moi, j'ai beaucoup travaillé aux urgences et en réanimation. J'entendais mon collègue parler de la surcharge du travail dans ces services. Alors, c'est vrai que moi, je n'aurais pas dit qu'on fait des choix. Moi, je n'ai jamais eu à faire des choix en réanimation pour dire on va prendre ce patient plus clos, parce qu'il existe des transports et on fait ce que l'on appelle des transferts vers des centres qui ont de la place pour accueillir. Mais bon, je ne remets pas en cause les dires de mon collègue, chacun son expérience et son vécu. Mais voilà un autre témoignage. La deuxième chose, c'est quelle serait nous, notre position médicale. Une jeune dame de 30 ou 40 ans, je ne me rappelle plus à l'époque, il y a 25 ans, avait fait une tentative de suicide extrêmement grave. Plusieurs arrêts cardiaques, elle va en réanimation, etc. Elle avait écrit sa lettre en disant, voilà, cette vie ne vaut pas le coup pour telle et telle raison, pour etc. Elle est massée, intubée, remassée, choquée. Enfin bon, bref, ça dure pendant plusieurs heures. Et petit à petit, ça va mieux. Elle s'améliore. C'est une dame que je croise toujours dans l'établissement, au bout de 25 ans, qui n'a jamais récidivé. Et je me suis dit, mais est-ce que cette dame, nous médecins, on nous demande de la réanimer alors qu'elle fait des directives anticipées, dit laissez-moi mourir, etc. Et d'un autre côté, on va nous demander, médecins, d'accompagner la mort activement. Moi, ça me paraît un grand écart. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec tes paroles en disant c'est un débat de société. Voilà. Peut-être, un jour, j'en parlais avec M. Gomel en disant ben, oui, peut-être qu'un jour, il y aura une loi. Peut-être qu'un jour, on aura des euthanasiums. On prendra rendez-vous. 17h30 demain, Vivaldi, très bien. Le bleu ciel, très bien. Bon, ben, 17h30, peut-être, j'en sais rien. C'est un débat de citoyens. Mais ce n'est pas un débat médical. Moi, je suis là pour soigner, mais comme mes collègues, mais on le fait peut-être différemment, on le fait avec, je crois, le même amour. Voilà, peu importe après ce que l'on fait, etc., je crois qu'il y a notre engagement. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas nous demander de réanimer dans certains cas quand des gens demandent à mourir, et puis de l'autre côté, de dire, ah ben si, aidez-les à mourir là. Alors, non, c'est un débat de société, l'euthanasie. Et après tout, combien de fois on se dit, je vois un de mes confrères, le docteur Fougera, qui est au fond de la salle, on se disait récemment, mais la plupart du temps, les gens, s'ils avaient voulu en finir, ils auraient arrêté tel traitement, etc. Donc, je sais, on peut débattre sur tout ça. Mais ne demandez pas aux médecins de faire ça. Mettez une voie veineuse, et c'est 6 mois d'apprentissage. Vous créez un centre d'euthanasium ou d'aide à mourir. Pardonnez-moi si mes mots, ils ne sont pas ceux que vous pensez. Je ne suis pas là pour... voilà. Je dis que c'est un débat de société, pas un débat médical. Merci.
Je crois qu'il y a une demande d'ouverture du débat, donc je vais donner la parole. Et il va falloir prendre des... Vous aviez levé la main la première, semble-t-il, non ?
C'est le monsieur au fond.
Le monsieur au fond. Ah, pardon ?
Merci de prendre ma question. Je suis le docteur Fougera, moi je travaille dans un réseau de soins palliatifs à domicile à Niort. Et en fait, je boue depuis tout à l'heure parce que je ne me reconnais pas du tout dans... excusez-moi docteur Sonnet, mais je suis choqué par je ne me reconnais pas dans ce que vous décrivez comme étant l'exercice médical commun. Moi, je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais eu l'intention... dans une prescription d'abréger la vie de quelqu'un. Mon travail et ma compréhension de la loi Leonetti, je pense assez juste, c'est de de considérer qu'il y a des douleurs qui nécessitent des traitements et que ces traitements peuvent abréger la vie et que c'est ces traitements-là qu'on met en œuvre, mais dans l'intention de soulager les gens et pas dans l'intention de les éliminer, de les tuer, enfin je ne sais pas comment dire, pour ne pas trop choquer. Donc Ça, c'est une première chose. Et j'aimerais bien, si vous voulez bien, alors vous avez pris plusieurs fois des précautions en disant de nombreux médecins le font, d'accord, mais ça, je vous rejoins tout à fait. C'est vrai qu'il y a de nombreux médecins le font, mais tous les médecins ne le font pas. Je voudrais rassurer des gens, parce que je sais qu'il y a des gens que ça inquiète. On ne vous tuera pas si vous venez nous voir. On ne fait jamais ça, on propose des traitements. Moi, je décide rien pour personne. Je considère que mon travail, c'est de donner des explications aux gens et de mettre en œuvre des pratiques, des techniques médicales, des choses comme ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est certainement pas moi qui décide de quoi que ce soit. Je voulais simplement apporter ce témoignage-là voilà, et vous remercier. J'ai longuement hésité avant de venir à un débat à la DMD. C'est vrai que je vous prie d'excuser mon énervement là.
Il est vrai que la DMD semble déroger à certaines traditions dans la mesure où elle organise un vrai débat, c'est-à-dire où elle permet à des voix discordantes avec les nôtres de s'exprimer. C'est effectivement une grande originalité, surtout quand on a participé à des débats d'un autre type et qu'éventuellement on a refusé de répondre à des questions qui étaient pourtant bien naïvement posées.
Moi, je suis Aldo Renaud, je suis pneumologue, cancérologue. Je prends des patients en charge depuis de nombreuses années. Avant d'être pneumologue, j'ai travaillé beaucoup dans le sida. Et je suis moi aussi assez choqué, mais paradoxalement, plus d'autres propos. J'ai accompagné plusieurs patients, j'ai aidé plusieurs patients activement à mourir. Je pense, comme M. Senet, que c'est... pas du tout un abandon, au contraire. En plus, nous, dans notre équipe, c'est une prise en charge de A à Z des patients. Alors, c'est vrai que c'est rare, hein. C'est pas du tout des choses qu'on fait en routine, c'est pas des choses qu'on fait avec plaisir. Rassurez-vous, on ne tue pas, j'ai pas l'impression de tuer. De même qu'un obstétricien ne donne pas la vie, enfin, il aide à vivre, mais éventuellement, moi, j'ai peut-être aidé à partir, mais j'ai pas tué. Voilà. Alors, je voulais juste essayer de... qu'on fasse attention, parce que un débat, c'est très bien. Un débat contradictoire, c'est très bien. Je suis très content qu'il ait lieu. Je suis d'accord avec M. Séné sur le fait que beaucoup de médecins pratiquent l'aide médicale active à mourir. Ça, c'est un fait. Je pense que le cadre est indispensable pour ceux qui veulent bénéficier de cette aide médicale active à mourir et éventuellement, parmi ceux-ci, ceux qui ne veulent pas bénéficier des soins palliatifs. Il ne faut pas oublier ceux qui ne veulent pas bénéficier des soins palliatifs. Parce que certaines personnes parmi nous peuvent penser qu'ils peuvent rester autonomes jusqu'au bout et que ce n'est pas aux autres de les soutenir et de décider pour eux de ce qui est soutenable ou insoutenable pour eux. Et après, je pense que pour la poursuite du débat, c'est important qu'on arrête absolument, parce que sinon le débat va être très très énervant, de parler d'inceste, de parler de cannibalisme et de parler d'euthanasium. Voilà. Attention. J'ai des enfants, je pratique pas l'inceste. Alors je vais aller pousser un peu la provocation. J'ai des enfants, je ne pratique pas l'inceste, d'accord? J'adore bouffer, je suis pas cannibale, d'accord? Et pour pousser jusqu'au bout le paradoxe, je pense que si mon père a besoin de quelqu'un pour l'aider activement à mourir, qu'il en a pris la décision, je peux faire ça et c'est un acte d'amour.
Bonjour, bonsoir. Pendant qu'on est dans les gros mots, on a dit inceste, etc. Moi, je vais parler de suicide. Je trouve qu'on fait un peu marche arrière. Moi, je suis membre de la DMD depuis... je suis un ancien 68ard, donc ça s'inscrit dans la foulée. Et il y a très longtemps, quand j'étais petit, il y a eu un livre qui est sorti qui s'appelait « Suicide, mode d'emploi » et qui a disparu de la circulation dans les semaines qui ont suivi sa publication. Alors, je me demande un peu pourquoi, quel blocage il y a. Et puis, excusez-moi, messieurs les médecins, que je respecte par ailleurs, mais je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de vous? Est-ce qu'on ne peut pas gérer ça nous-mêmes au moment où on estime que le moment est venu? Voilà.
Merci. Je pense que Laurence voulait... Oui, ok. Laurence voulait intervenir. Vas-y, Laurence. Oui. Celui qui est devant Laurence, il doit fonctionner.
Alors, je suis ravie hein, que vous n'ayez pas commis ni l'inceste ni le cannibalisme, mais par contre, je me demande comment vous utilisez vos oreilles pour écouter un propos. Parce que à aucun moment dans mes propos, j'ai assimilé le donner la mort à l'inceste et au cannibalisme. J'ai dit qu'il y avait trois interdits fondamentaux qui fondaient notre société, mais à aucun moment j'ai dit que donner la mort, c'était commettre un acte incestueux ou le cannibalisme. Donc, merci de vous mettre au travail. Enfin, excusez-moi, mais après, c'est vous-même.
Vous avez aggloméré, c'est insupportable, c'est tout, c'est insupportable. C'est pas la même chose. Demain qu'on peut pas agglomérer quelqu'un qui, évidemment, quelqu'un qui a 30 ans, qui se suicide, je suis médecin, je bosse aux urgences, je bosse en réanimation, évidemment, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui est en cancer, en phase terminale, qui arrive plus à respirer, qui prend soin de se maquiller tous les jours et qui se dit, voilà, maintenant vous me suivez depuis 2 ans, maintenant j'ai décidé que ce soir, c'était le dernier soir, on l'a décidé en famille, on en a parlé longtemps, et on est tous d'accord là-dessus, et c'est comme ça, et je veux vous m'aider à faire ça. Et évidemment, ce n'est pas la même personne que cette personne que vous avez sauvée, que vous avez massée, qui s'est suicidée et qui 20 ans vit toujours. On en est tous conscients. Alors arrêtons d'agglomérer des choses qu'il ne faut pas agglomérer. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même débat. Pourquoi cette peur de la mort? Pourquoi cette peur de la mort fait partie de la vie?
Pourquoi demander à quelqu'un d'autre de commettre cet acte pour vous?
Mais parce que certaines personnes ne peuvent pas le faire elles-mêmes. Et qui va le faire alors? Je sais que Leonetti avait dit que Vincent Imbert avait qu'à se débrouiller tout seul, quoi. Hein, prendre le manuel du suicide et se démerder tout seul. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Et quelle honte il y a à les accompagner? Quelle honte y a-t-il à ne pas les abandonner? Voilà, je reprends vos termes. Et la fenêtre des Loirs, pour moi, la fenêtre des Loirs, et pour certains patients, cette fenêtre-là, c'est cette possibilité d'être accompagné jusqu'au bout, justement. Et le soutien dont vous parlez, c'est ce soutien, ce n'est pas contradictoire.
Bon, écoutez, je vais vous proposer que la tension baisse légèrement. Il y a effectivement toujours un risque dans les vrais débats, dans les débats contradictoires. Nous en avons pris délibérément le risque. Et ce que je vous demande maintenant, si vous voulez, c'est que ce soit au niveau des intervenants ici, et j'en donnerai l'exemple, que ce soit dans la salle, de poser des questions, en particulier aux gens qui sont intervenus ici, pour voir quelle est leur réponse. Vous avez en particulier, vous êtes tous de la région de Poitiers, et vous avez, j'allais dire, devant vous, des médecins auxquels vous risquez, auxquels je risque d'avoir affaire, à tous les sens du terme, à un moment donné ou à un autre. Vous vous posez peut-être des questions, vous touchant viscéralement, compte tenu de leur fonction et de ce que sera votre statut en tant que patient. Alors, si vous le voulez, ça éloignera la confrontation frontale, n'est-ce pas? Et je vous invite à poser des questions et on verra quels seront les éléments de réponse. Je vais rendre le... Ah, voilà. Je rends le micro ambulant à qui de droit?
Alors, bonsoir. C'était pour autre chose, du coup. À un moment donné, dans la discussion, j'entendais comme quoi on faisait comme pour nous. C'est-à-dire que quand une personne est en phase terminale, on fait le choix de faire ce qu'on ferait pour nous. J'espère que personne fera pour moi ce qu'il pense bien pour lui, parce que mon histoire est différente, que la sienne est différente. Et on parlait d'aller à la rencontre des histoires des personnes. Je crois que c'est important. Un autre point, Nicole Poirier travaille auprès des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Il y a un an, elle a assisté à un sénat concernant des histoires de vie de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Dans ces histoires de vie, on aurait tous effectivement voté l'euthanasie pour ces personnes-là, parce que le dialogue était fait de telle sorte que c'était tellement horrible, la vie des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, qu'on aurait dit « faut arrêter ça ». Sauf que nous qui je travaille auprès de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, on les accompagne, on accompagne les familles, et dans cet accompagnement, on est dans le plaisir, dans profiter de l'instant présent, et c'est des personnes qui ne sont pas forcément, comme on peut le voir, décrites sur un texte, sur des enquêtes, où on ne va pas à la rencontre de ces histoires. Et je crois que ce qui... Voilà, juste c'était sur ce point-là où J'espère qu'on ne prendra pas une décision à ma place parce qu'on le ferait comme ça pour soi, parce que je ne suis pas sûre que voilà, ça serait ma décision à moi.
Merci.
Je voulais poser une question par rapport aux médecins. Vous parlez des directives anticipées, que vous voulez les respecter dans le meilleur des cas. Mais je voulais savoir comment on pouvait respecter des directives anticipées alors que les directives anticipées sont faites au moment où la personne va bien. Et comment imaginer le futur quand on va mal. Et je voulais donc vous poser la question par rapport à ces directives anticipées parce qu'ils peuvent dire ben, je ne veux pas d'aspirateur, je ne veux pas de tout ça et que finalement, en plus elles sont valables 3 ans, donc si elles le font maintenant, dans 3 ans, l'évolution au niveau médical, tout ça va changer. Et comment pouvoir vraiment respecter ces directives anticipées que vous parlez tant et essayer de s'appuyer sur celles-là.
Alors, les directives anticipées, bien entendu, elles sont révisables à tout moment, ça c'est évident, et elles sont d'autant plus révisables que vous êtes capable de vous exprimer. L'intérêt des directives anticipées, c'est quand la personne ne peut plus s'exprimer. Tant qu'elle peut s'exprimer par tous les modes, si vous voulez, quelqu'un comme Vincent Imbert, il ne parlait pas, mais il s'exprimait avec un pouce. Bon, donc c'est la parole de la personne au moment de la situation qui compte, bien entendu. Par contre, effectivement, on demande. Enfin, elles ont été prévues d'être réadaptées, enfin, renouvelées tous les 3 mois. Moi, c'est une notion qui est très. 3 ans, pardon, tous les 3 ans. La notion. J'entendais le monsieur qui est au fond de la salle, que je fais bouillir apparemment, la notion de la répétition, de l'insistance, du maintien de l'engagement me semble quelque chose d'essentiel. Je crois que, effectivement, vous voyez arriver dans un service de soins palliatifs quelqu'un qui est très, très douloureux, moralement, mettons, hein, parlons pas de souffrance, mettons que ça a été réglé au niveau physique, mais qui va très mal sur le plan moral, vous vous occupez de l'accompagner, vous n'allez pas tout de suite, enfin, cette espèce de manière de penser qu'on va planter des seringues, ça paraît tellement surréaliste. Enfin, on aide les gens, mais après, dans des accompagnements, dans des sédations. Par contre, dire qu'il n'y a pas de médecins alors qu'ils font des euthanasies, moi, je suis d'une génération où on utilisait quelque chose qu'on appelait le DLP. Je pense que la majorité de la salle sait de quoi il s'agit. C'était un cocktail dit lithique. C'était pratiqué, c'était utilisé. Et actuellement, quand on fait des sédations en utilisant principalement de l'hypnovel et de la morphine, on fait des aides à mourir. Faut pas rêver. Je vais vous lire un tout petit texte qui n'est pas très long, de Gilbert Desfosses. Gilbert Desfosses, c'est un patron de soins palliatifs parisien. La fin de vie d'une patiente atteinte d'une tumeur du cerveau qui était âgée de 55 ans, hémiplégique, qui refuse l'alimentation et l'hydratation. Le 8 juillet, arrêt arrêt de l'alimentation. Le 8 août, arrêt de l'hydratation. La patiente est décédée le 26 août. Gilbert Desfosses, qui n'est pas du tout un militant de l'euthanasie, reconnaît que ce fut long et très long. Quand on a pratiqué dans le service où je travaille, on est 6 médecins, 12 d'infirmières, je ne travaille pas tout seul, bien sûr. Quand on a pratiqué des lois Leonetti, appliqué des lois Leonetti, donc en respectant les protocoles, quand vous avez quelqu'un qui risque de durer comme ça, vous ne le faites pas survivre la douleur. Quelqu'un qui a décidé de s'arrêter de vivre, vous allez l'accompagner en l'aidant, au moins en l'endormant. Ça me semble le minimum. Quand on fait des applications Leonetti et qu'on est un médecin digne de ce nom, on ne dit pas, tu veux que je te débranche et je te regarde t'étouffer. Enfin, aucun d'entre nous ne va enlever un appareil respiratoire et regarder quelqu'un s'asphyxier. On a tous des protocoles qu'on applique, vous le savez tous très bien, ceux qui travaillent en soins palliatifs, en cas d'hémorragie, en cas d'asphyxie, on travaille tous comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un qui a une hémorragie sur un cancer otorino se met à saigner de manière terminale, parce que vous savez que ça peut aller à ce moment-là très vite et c'est très impressionnant, on l'endort, on a tous des protocoles pour au moins les endormir. Et on accélère par notre geste, par le geste de la sédation, on accélère le décès. Je crois que c'est pas. Il n'y a pas de honte à le faire ni à le dire, et à dire qu'on le fait. Je crois que. Mais vous ne trouverez ça jamais écrit dans un dossier médical, parce que, évidemment, on n'a pas le droit de l'écrire, parce qu'on n'a pas le droit d'aider les gens à partir. Je crois qu'il faut être très, très clair là-dessus. Hein. Juste pour la dame qui avait peur qu'on ne respecte pas, enfin, qu'on fasse pour nous, enfin, pour elle comme pour nous. J'ai eu 2 malades qui avaient le sida, à l'époque où on ne soignait pas bien le sida, qui avaient le même âge, qui avaient 30 ans tous les deux. Il y en avait un qui avait attrapé le sida par l'homosexualité, donc qui tenait beaucoup à son allure physique, c'était un beau gosse homosexuel. Et l'autre qui avait attrapé le sida par la seringue, par la toxicomanie. Le premier m'avait dit, quand je serai plus digne, à mon avis, quand je tiendrai plus debout, il avait vu mourir son copain, c'était le cas de beaucoup d'homosexuels, j'aimerais que tu m'aides. Le deuxième m'a dit, on trouvera forcément un médicament, il faut que je tienne jusqu'au bout, c'est sûr, ils font des recherches, l'Amérique et tout ça. Le premier m'avait demandé de l'aider. Quand il l'a décidé, et c'est une question mûrement réfléchie pour lui, je l'ai aidé. Et le deuxième, je ne l'ai évidemment pas aidé, puisqu'il est allé jusqu'au bout. Donc il est mort, il faisait 30 kilos. Enfin bon, c'était pour ses parents beaucoup plus dur. D'ailleurs, je vois toujours les deux mères. Le souvenir de la mort de celui qui est mort de mort naturelle, si je puis dire, est resté bien plus mauvais dans la famille, mais on a respecté sa demande, que celui qui a décidé de partir à un certain moment. Qui est parti, si je puis dire, droit dans ses bottes. Quand j'avais fait des émissions de télé sur les aides à mourir, on avait essayé de voir un petit peu les gens, le profil, si vous voulez, des gens qui demandent à être aidés à partir. C'est tout de même dans l'ensemble des gens qui sont plutôt, ça se recrute plutôt chez les journalistes, les profs, les syndicalistes. Enfin, c'est plutôt des gens, on va dire, qui ont eu une vie droit dans leurs bottes et qui veulent, enfin, je suis désolé, et qui veulent mourir droit dans leurs bottes. Enfin, il y a un profil, si vous voulez, peut-être un petit peu... on va dire, je sais pas, mégalo, enfin bon, mais pas les, moins les ouvriers, oui. Ben si, mais il y a moins de demandes. Alors, je pense que culturellement, je pense que c'est parce que l'accès... Non, mais vous savez, alors, disons les choses, disons les... Bien sûr, non, mais moi aussi. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, ce que je veux dire, c'est que l'accès... Non, vous avez raison de m'interrompre. L'accès aux soins médicaux, et notamment l'accès à l'aide à mourir active... est aussi la loi nous apporterait une égalité. Actuellement, on sait très bien tout. Quand vous parlez avec les médecins, ils vous disent « Ah ben non, moi, il ne faut pas faire de loi. Mais moi, évidemment, si j'ai un problème ou si ma femme elle a un problème, je trouverai bien quelqu'un. Hein, » Et les gens dans la société qui sont bien entourés, enfin qui ont du pognon et du pouvoir, eux, ils trouvent quelqu'un pour les aider. Je ne fais pas d'allusion à des hommes politiques célèbres. Enfin, on le sait très bien. La loi réintégrerait l'égalité aussi du droit à l'accès à la mort, à mon avis.
Bien, bon, merci beaucoup. Je vois des mains qui se lèvent dans la salle pour demander la parole. Alors je vous demande, si vous le voulez bien, de respecter un petit peu le code que j'ai proposé, qui n'est pas d'affrontement, qui aboutirait à nous retirer le souci d'avoir des débats contradictoires, n'est-ce pas, et poser des questions plutôt, si vous le voulez bien.
Bonsoir, merci de me donner la parole. Je crois qu'il y a quand même un mot qu'on a oublié ce soir. On a parlé beaucoup médical, on n'a pas beaucoup parlé dignité. Et ça me semble important. Et je me demande si justement les contradictions qu'on a en nous-mêmes les paradoxes qu'on semble évoquer ne sont pas dus au fait qu'avec la douleur, avec... même le meilleur accompagnement, on baisse. Et quand on baisse, il y a un moment donné, on perd sa dignité et on disparaît peut-être sans souffrir, mais soi-même, est-ce qu'on est soi-même encore quand on disparaît comme ça? Je crois qu'il y a un respect de la dignité, ça veut dire qu'il ne faut pas encourager les gens à vouloir vivre malgré eux si eux n'en ont pas envie. C'est leur dignité que vous leur prenez.
Je veux bien répondre. La dignité, elle est inhérente à l'être humain, elle ne se perd pas. Par contre, oui, quand on est très malade et dégradé, âgé, on a le sentiment de perdre sa dignité, et ça, il faut l'entendre. Et d'ailleurs, c'est une des demandes d'euthanasie quand les personnes ne se supportent plus, justement, physiquement. Et qui peut redonner la dignité à quelqu'un si ce n'est pas un autre? Un autre, que ce soit les soignants, les proches, les amis, ou peut-être des bénévoles qui ont choisi d'accompagner. Mais ça, c'est important pour que la personne se sente encore exister pour quelqu'un, pour sa famille, pour ses amis. Mais c'est vrai, c'est difficile... quand on est très malade et dégradé, surtout les personnes âgées disent « ça ne vaut plus la peine que je vive, regardez, je ne suis pas digne d'être regardée ». Enfin, ça, c'est un sentiment très, très courant que rencontrent les soignants ou les personnes qui accompagnent dans les services de soins ou des personnes âgées.
Alors, moi, j'aimerais dire à quel point ça peut être violent aussi de s'entendre dire quand, soi-même, on pense que sa vie n'est plus valable, sans dire « mais si, mais si, mais si ». Ça peut être très violent et irrespectueux. Mais je voulais simplement intervenir en croisant plusieurs propos, celui de mon voisin qui a parlé de suicide, celui de M. Montaz qui a parlé de débat de société dans ce domaine-là, et puis une expression qui était « pousser la seringue ». Et moi, ça m'évoque toutes les situations où, si ce droit-là n'était pas confisqué par le pouvoir médical, il y a tout un large éventail de situations où la personne elle-même, le patient, qui le décide, pourrait disposer du moyen de finir tranquillement au moment où il l'aurait choisi. Et un certain nombre d'études ont montré que lorsque les personnes ont à disposition ce moyen-là, je parle de personnes atteintes de maladies incurables, non seulement dans la plupart des cas, elles ne l'utilisent pas, mais elles s'éteignent paisiblement, mais en sachant que si c'était nécessaire, si elles n'en pouvaient plus, elles auraient recours elles-mêmes. Et bien évidemment, je crois que personne ne demande que ce soit les médecins qui poussent la seringue systématiquement. Puisque on sait que ça existe, mais ce sont dans des cas ultimes. Bien souvent, on peut faire confiance aux personnes elles-mêmes pour décider à quel moment, stop, je ne peux plus, je ne veux plus. Sans avoir recours à des moyens extrêmement violents pour elles-mêmes et pour ceux qu'ils trouvent. Moi, j'ai encore des propos de médecins dans la tête qui disent pas de problème, on peut toujours se suicider quand on veut, en passant par-dessus la passerelle, en précipitant sa voiture contre un arbre. Est-ce ça une fin de vie digne quand on n'en peut plus ?
Je peux rajouter un petit mot. Le petit livre Suicide mode d'emploi, c'était à vous décourager de vous suicider, parce que c'était plein de solutions du genre sauter de la passerelle, etc. Et il n'y en avait qu'une seule qui consistait à se procurer un cocktail de médicaments en allant voir 3-4 médecins différents. Et ça, probablement que ça marchait. Mais ça, les médicaments ont disparu immédiatement. Ça a été vraiment considéré comme... Et je me demande si notre passé judéo-chrétien, il faut bien le dire, pas quelque chose à voir là-dedans. Hein. Voilà, c'est une question.
Je voudrais répondre à quelques éléments, là, si vous me le permettez. Je voudrais répondre à cette dame et puis à quelques interventions. Nous n'avons aucun pouvoir médical, madame. Merci de m'écouter comme je vous ai écouté. Nous n'avons aucun pouvoir médical. Aucun pouvoir médical. La preuve, c'est le législateur qui a aujourd'hui le pouvoir. Ce n'est pas les médecins, c'est le législateur qui décide actuellement si oui ou non nous aurons le droit de légaliser l'euthanasie. Pour les médecins. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites, j'ai pas envie qu'on me gonfle en disant, mais si, ça vaut le coup, vous êtes paralysé, mais ça vaut le coup. Vous avez bien raison, c'est un discours niais. Mais je pense que personne parmi les soignants, j'espère, vous avez dû tomber sur des gens, mais nul n'est parfait, vous ne l'êtes pas non plus, je ne le suis pas. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que, bien sûr, quelqu'un qui va vous dire « ma vie n'est pas digne », on ne va pas lui dire « mais si, vous ne marchez pas, vous n'y voyez plus rien, vous avez mal et tout, ça vaut le coup ». Ce n'est pas du tout ça, nos propos. Venez dans le service. Venez voir d'autres. Si vous avez eu la malchance de connaître des soignants, mais il y a des mauvais éboueurs, il y a des mauvais médecins, il y a des mauvais ministres. Donc voilà, mais essayez d'aller en voir. Allez au centre de la douleur, allez chez mon autre confrère, peut-être que vous entendrez un autre discours. Mais le but, c'est pas de dire si, ça vaut le coup. C'est de dire, je comprends, c'est insupportable votre vie, là. C'est insupportable. Je vous parlais d'une dame qui est actuellement dans le service, qui a votre âge, qui a le mien. Il y a 3 semaines, elle pleurait jour et nuit. Jour et nuit. En disant, c'est insupportable. Donc, j'en veux plus de cette vie, là. Je vais mourir, j'ai un cancer, j'en ai partout. Comble de l'horreur, bout de 8 jours paralysé. Vous nous voyez dire, monsieur, madame, ça vaut le coup, on vous l'avait dit. Ah, ça fait quand même plus de 10 jours que vous pleurez. Alors bien sûr, c'est affreux. On avait beau passer des heures auprès d'elle. On ne la calmait pas. Et puis petit à petit, avec nos cachous, avec nos mains, avec nos écoutes, avec les soins, avec les toilettes.
Et bien petit à petit aujourd'hui, je pense que plusieurs personnes peuvent en témoigner ici dans cette salle. Cette femme est rayonnante. Alors il n'y a pas de... Je ne suis pas là avec une baguette magique en disant, oh, voyez, c'est merveilleux, les soins palliatifs, venez donc. Non, ce n'est pas ça. C'est que je veux vous dire que cette dame, ça fait maintenant 15 jours, ça fait à peu près 5 semaines, c'est ça, oui, qu'elle est dans le service, avec 15 jours qu'elle elle a plus cette récidive. Par contre, les gens qu'on a aidés à mourir, parce que vous avez raison, monsieur, l'euthanasie, l'euthanasium, pardon, on simplifie nos propos comme ma collègue a eu des propos, je veux dire, c'est vrai, dès qu'on parle d'inceste, etc., il n'y avait aucune violence dans son propos, il n'y avait aucun amalgame. Mais il y avait simplement un repositionnement sur les fondements de notre société. Et ce que je veux vous dire, et j'en ai perdu le fil, je vous prie de m'excuser, mais où j'en étais? Ah oui, c'est que cette dame, si on l'avait euthanasiée, eh ben c'est vrai qu'on n'aurait pas eu son discours par contre à elle pour nous dire, moi j'ai perdu ça. Parce que là, depuis 15 jours, ça se passe très bien, elle est sortie chez elle même, elle est revenue. Elle ne demande rien, sa famille est ravie. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que cette dame, on l'aurait aidée à mourir. Elle ne serait pas venue nous dire, ah ben dites donc, j'ai vu une autre possibilité, j'aurais bien pris mes 15 jours de plus. On n'aura jamais ce discours, jamais. Mais qui a raison? Moi? Pas sûr. Vous? Pas sûr. Et c'est vrai que, ben voilà, nous sommes ici pour avancer ensemble. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de... etc. Mais je suis d'accord, on n'aide pas les gens à mourir comme ça, etc. Je veux dire, ce temps est nécessaire. Je ne dis pas pour faire changer d'avis. Je ne décide pour personne, mademoiselle. Pour personne. On décide pour personne. Mais ce temps, il est nécessaire pour se poser ensemble. Pour réfléchir. Pour se dire, est-ce que ma demande, elle est vraiment fondée? Est-ce qu'elle est forte? Et effectivement, nous n'allons peut-être pas accéder à cette demande d'euthanasie. Alors l'euthanasie, j'aime pas ce mot parce que je pense qu'il représente mal ce que veulent dire nos collègues. C'est à cette aide à mourir, voilà. Mais je crois que là, on se comprend mieux. Mais on va le faire différemment. Mais et les gens, vous savez quand même, voilà, il y a ce temps, la notion du temps, c'est-à-dire, et ça revient un petit peu à ce que vous disiez, c'est-à-dire entre l'imaginaire. Je ne veux pas vivre ça. Alors, il y a une excellente étude. Les États-Unis, ils ont interrogé des gens comme vous à la sortie d'une conférence. Si un jour vous êtes tétraplégique, jamais. Alors, ce n'est pas la peine. Je ne veux pas de ça, moi. Hein. Je ne veux pas être tétraplégique. Ce n'est pas possible. Vous rendez compte, mes enfants, ma femme, moi, mon idée. Et moi, on me demanderait ça. Tétraplégique, ouais. Non, merci. Je préfère passer de l'autre côté. Oui, puis alors, ils ont demandé à des gens tétraplégiques. Ou à des gens, vous savez, ce qu'on appelle les varices du tonneau, quoi. C'est-à-dire qui ne bougent pas du tout. Alors, ils ont évalué leur qualité de vie. Ils sont quand même gonflés, hein, d'évaluer la qualité de vie chez des tétraplégiques. Est-ce que vous voulez mourir? 90% des gens disent non, merci, ça va. J'ai amené un texte, là. J'étais sur Google avant de venir ici. Google, l'ami qui vous fait du bien. Et alors, j'ai tapé bonne santé, je ne sais plus quel mot j'ai rentré, bonne santé, tétraplégie, qualité de vie. Et je suis tombé sur un texte d'un homme, justement, tétraplégique. Alors, il se présente, il dit, voilà, je me présente, j'ai 43 ans. Alors, c'est super, hein, parce qu'il fait deux présentations, c'est deux facettes. J'ai 43 ans, je suis entrepreneur, j'ai fait telle société, j'ai été reçu par tel ministre, j'ai donné mon avis, j'ai écrit tel livre et tout. Très bien, super, bravo, une vie bien pleine, là, on a l'impression. Puis alors, il y a l'autre partie du décor. Ah oui, mais au fait, j'ai oublié de vous dire, je suis tétraplégique. Hein, je bouge un peu comment je parle un peu. J'ai encore les yeux qui bougent un petit peu. Puis je crois que j'ai un petit doigt. Enfin, je ne sais pas quoi. Vous avez peut-être ce texte. Pardonnez-moi, je suis fini. J'en ai pour deux minutes. Et alors, il dit, tout va bien dans ma vie. Sauf depuis quelque temps. Depuis 3 semaines, pourquoi? Parce qu'il y a des aides qui ont diminué. Il dit... Je vous lis, hein, mais alors j'ai oublié mes lorgnons, moi, donc c'est une catastrophe, il me faudrait des loupes. Mais enfin, bon, bref, je l'ai lu, merci beaucoup. Il dit, moi, pour, en fin de compte, il n'y a que 2 heures. Ah oui, non, mais c'est gentil, mais c'est pas... mais je te remercie beaucoup de m'aider. Il dit, il n'y a que 2 heures, je suis handicapé dans ma vie pendant 2 heures, le matin, au moment de ma douche, puis le soir pour me coucher. Et là, j'ai besoin d'aide pendant 2 heures. Sauf qu'il a moins d'aide actuellement. Et donc, on lui a dit, ben maintenant, monsieur, vous prendrez une douche par semaine. C'est pas mieux, hein. Il dit, vous prendrez une seule douche par semaine. Vous ferez votre toilette au lit avec une cuvette et un gant de toilette. Et vous aurez un lit médicalisé avec une tablette roulante. Et votre coucher sera à 22 heures et parfois 21 heures. Il dit, mais moi, là, cette vie-là qu'on me propose, c'est plus du tout ça que je veux. Ça, c'est une vie d'horreur. Eh oui, parce que ça coûte cher quand même, le handicap. Ça coûte cher, la fin de vie. Osons les mots. Ah oui, peut-être plus facile d'accélérer les choses, parce qu'au moins, on aura une jolie société où tout le monde aura son Coca-Cola. Hein? Non, pardon, je m'écarte.
Alors, si
je m'écarte. Là,
non,
mais pardon,
là,
pardon, je m'écarte.
C'est à mon tour.
Mais oui, voilà.
Non, c'est à mon tour que je reprendrai les propos qui ont été exprimés
c'est
là.
C'est insupportable parce qu'il y a une réalité économique quand même.
Oui, non, mais ça, l'argument... Non.
Pardon, je voudrais poser une question un petit peu plus terre à terre. Je voudrais poser une question un petit peu plus terre à terre. C'est au docteur Monta, c'est aucune agressivité. Ah non, du tout. Moi, je veux savoir, parce qu'on habite dans le département. Moi, je représente les habitants du département. Et puis, parmi nos adhérents, nous avons beaucoup de personnes très âgées et qui se retrouvent dans des EHPAD. Et puis, eh bien. Elles ont des handicaps qui se multiplient. Et puis alors, dans les EHPAD, il y a un problème. C'est que le week-end, il n'y a pas suffisamment de personnel. Et ces personnes, elles se retrouvent, enfin ça m'en fait mal au cœur, elles se retrouvent sur un brancard aux urgences. Alors elles y vont une fois. Et la deuxième fois, elles disent, je ne veux pas y retourner. Moi, j'ai été contactée par des enfants qui m'ont dit ça. Ma mère, elle ne veut pas retourner à l'hôpital. Et alors, ce que j'aimerais savoir, ça c'est tout à fait quelque chose d'objectif, c'est par rapport aux personnes âgées, est-ce que vous avez des soins palliatifs à disposition dans les hôpitaux, enfin peut-être que vous occupez de la Vienne en général, je ne sais pas.
J'attends la fin.
Voilà, dans les places qui sont destinées aux personnes âgées, quoi, parce qu'il y en a beaucoup dans les hôpitaux, et puis les soins palliatifs à domicile, enfin, si vous pouviez nous faire un état de ce qui existe sur le département. Parce
Madame,
que
vous avez tout à fait raison, c'est une honte ce qui se passe dans les EHPAD aujourd'hui
en France.
Parce que
c'est quand même catastrophique.
C'est une honte.
Et moi, j'ai des personnes
Madame,
qui m'ont demandé
de... Madame, pardonnez-moi
de
vous avoir blessé, puis mon confrère, c'est pas le but, et je vous prie de me pardonner. C'est pas... Voilà, je me laisse emporter. Mais ce que je veux dire, c'est que... bien sûr, la science, elle coûte cher, etc., mais... Quand on voit, par exemple, ce qui se passe dans les EHPAD, il faut mettre de l'argent, effectivement, dans les EHPAD pour éviter des situations catastrophiques de gens âgés qui sont délaissés, il n'y a pas de personnel, ils arrivent en catastrophe, etc. Et pourquoi il n'y a personne, etc. Pour des raisons économiques. Alors, quelquefois, on arrive à des situations extrêmes où vraiment il y a une violence dans les soins, une violence de prise en charge, où on ne respecte pas la volonté du patient, etc. Mais parce qu'il n'y a aucun moyen... Il y a en France, ce qui se passe aujourd'hui dans les EHPAD, alors les soignants qui travaillent dans les EHPAD, ils font tout ce qu'ils peuvent, hein, attention, hein, ils bossent comme des dingues. Mais par contre, c'est vrai que quand vous êtes deux, une infirmière et une aide-soignante, pour gérer 60, ben c'est l'événement de la presse de ce soir. Une maison de retraite, l'équipe du jour est partie, l'équipe du soir n'a pas embauché, tous les résidents, les 60 résidents sont restés tout seuls, dont certains étaient des patients déments qui faisaient des chutes, etc. Ça coûte. Alors déjà, avant toute chose, c'est donnons-nous des moyens financiers pour déjà, en dehors de l'aide à mourir, etc., pour déjà voir jusqu'où on peut effectivement accompagner. Voilà, déjà cette première étape.
Écoutez, je crois que en termes de, entre guillemets, temps de parole, je représentais deux personnes, j'ai peu utilisé mon temps de parole. Je vais donc essayer... Je suis surpris par le nombre de fois, mais ça se passe souvent, en définitive comme ça, en milieu médical, ce que je commence à observer, qu'on sorte le cas particulier ou le cas anecdotique, alors que d'autres évoquent des études, évoquent des cohortes, des grands nombres. Je suis surpris qu'il n'y ait pas d'écho lorsque, ayant évoqué l'étude de Ferrand, parue le 10 octobre, qui dit que, il peut subsister de façon stable, permanente, pas du tout attribuable à des caprices, n'est-ce pas, une volonté d'être aidé à mourir. Ça, c'est en France que ça a été fait. Ça confirme des études antérieures qui avaient été faites au Canada. Ça confirme des études antérieures qui ont été faites en Belgique. Quand je lis dans un article qu'une étude comparative du personnel soignant en matière d'attitude par rapport à une fin volontaire de traitement, si on est dans les deux situations limites, notamment état végétatif ou état de conscience minimale, se traduit statistiquement par le fait que le personnel soignant est tout à fait partisan d'un arrêt des traitements dans ces cas-là, pour eux-mêmes, leur entourage immédiat et leurs proches d'une manière générale, mais que par contre, la même question concernant les patients qu'ils ont en charge, statistiquement se traduit par, là on est plus réticent, et que la conclusion des auteurs est de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de judiciarisation, est-ce que le geste d'accompagnement que certains ici présents reconnaissent pratiquer, que l'on sait être pratiqué de toutes les façons, mais dans la clandestinité, est-ce que le fait d'avoir une loi tout de même qui sorte de l'ombre cette pratique clandestine ne leur permettrait pas justement de traiter leurs patients conformément, n'est-ce pas, au code de déontologie, comme ils souhaiteraient être traités eux-mêmes? Et la foule, alors déformée par ma formation scientifique, il est vrai que j'ai tendance à regarder plutôt que les cas particuliers et les anecdotes, mais je ne suis pas médecin, je ne les connais pas, les cas particuliers et les anecdotes. Je ne peux regarder que les études. Et quand je vois les études, je suis effaré par ce blocage persistant et cette singularité française. Alors, mon ami Laurent Montaz n'en est pas surpris. Au contraire, il prend même argument en disant il y a eu tellement, il peut y avoir des erreurs, même si un tas de pays décident que c'est exact. Mais en même temps, on peut aussi se rappeler que la France a été d'avant-garde aussi, par exemple, en matière de contraception, n'est-ce pas ? Qu'elle a donné la libre disposition de son propre corps aux femmes en 1967, 32 ans après la Suède. Effectivement, c'était être d'avant-garde. Et plus généralement, je terminerai en ce qui me concerne en disant, est-ce qu'il ne serait pas temps tout de même, et jusqu'aux limites, de poser la question de savoir qui est le ou la seule propriétaire de son propre corps. Et un certain nombre d'entre nous en ont ras la frange de voir d'autres décider à leur place sur cette affaire-là.
Oui, je voudrais réagir vis-à-vis de justement la confiance vis-à-vis du corps médical. Malheureusement, j'ai vécu quelque chose de dramatique dans notre famille. Mon beau-père était en phase terminale avec un cancer généralisé. Mon épouse est partie le voir. Elle a quitté la chambre. Elle a fait quelque part dans le couloir. Et qu'est-ce qu'elle a entendu ? Le docteur dire à l'infirmière, vous lui administrez le cocktail. 2 heures à peur, il est parti. Moi, j'ai confiance en la médecine. Mais dites-vous que c'est quand même traumatisant de vivre ça, surtout que pour moi, vivre jusqu'à la fin de sa vie digne, même dans la souffrance, moi, je crois en Dieu. Alors moi, je vais vous dire, c'est peut-être aussi ma foi, la souffrance n'est pas inutile. Alors excusez-moi d'exprimer ma conception, hein, elle est même rédemptrice, pour moi, je le crois. Hein. Donc voilà, je voulais vous dire quand même que j'espère toujours avoir confiance dans le corps médical.
On va passer la parole à une jeune collègue pour montrer qu'en France, on apprend le soin palliatif. Il y a une jeune interne du service de soins palliatifs qui n'est plus interne maintenant, qui souhaite intervenir. Laure, à toi.
Voilà, alors moi, je suis médecin dans le service de soins palliatifs, donc avec le docteur Montaz. J'étais avec Monsieur Diallo les 6 derniers mois au centre d'études et traitements de douleur. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'interroge dans ces études, c'est que l'étude de Monsieur Ferrand, que j'ai pas lu, vous nous dites, dit que c'est à peu près, vous nous disiez, 37% des demandes qui restent. Moi, ce qui m'interroge, c'est dans le service, et ça correspond, alors j'étais il y a 3 semaines à l'Observatoire national de la fin de vie, on a étude d'à peu près 2 cas, effectivement, je pense, réitérés. Donc ce qui est dans la loi, 2 cas sur 2 ans, ça fait 0,5% à peu près. Moi, c'est cet écart-là qui m'interroge. C'est comment on passe de 37% dans une population générale à 0,5% dans une population de gens qui sont pourtant malades, qui ont toutes les chances de dire que plus de cause ou de raison de se trouver diminué, et pourquoi, qu'est-ce qu'on, est-ce que le débat il n'est pas plutôt dans se donner les moyens de réduire déjà de toute cette proportion qui est finalement tellement importante.
Je crois qu'on ne voit pas, alors, vraiment d'expérience, on ne voit pas les mêmes patients dans les services de soins palliatifs et quand on est à domicile et quand on suit quelqu'un pendant toute sa maladie. On n'a pas le même recrutement. Et effectivement, on a dans les services de soins palliatifs des recrutements de gens hospitalisés qui viennent d'autres services hospitaliers et qui ont été quelque part triés parce qu'ils voulaient aller en soins palliatifs. Il ne faut tout de même pas non plus se faire d'illusions. L'accès aux services de soins palliatifs est très difficile. J'ai fait pendant 5 ans l'accueil, c'est-à-dire c'est moi qui décidais quel malade on prenait quand on avait un lit vide. Les conditions financières de fonctionnement sont dramatiques. Vous savez qu'il vaut mieux avoir quelqu'un 5 jours dans un lit que 15 jours. Vous gagnez plus de sous à avoir 3 personnes 5 jours qu'une personne 15 jours. Et au 35e jour, il vous coûte plus cher que ce qu'il vous rapporte. C'est Leonetti qui l'écrit dans son rapport. Hein. Ce n'est pas du tout de la polémique à DMD. Donc, en fait, on est confronté à des problèmes financiers importants. Et il y a un recrutement qui fait qu'on n'a pas les mêmes patients dans les unités de soins palliatifs et à domicile ou en médecine générale ou dans les services de médecine générale ou non spécifiquement palliatifs. L'intérêt de la loi, il y a deux choses même très importantes qu'il faut dire. C'est que l'exemple du tétraplégique, c'est un mauvais exemple puisque ce monsieur, il veut vivre, il est content de vivre. Je veux dire, c'est ben voilà. Moi, j'ai pas la loi permet d'être sûr qu'il va pas être contre son gré aidé à partir, y compris pour des raisons financières. Et ça, je crois que si on fait pas la loi avant qu'on soit rattrapé par la finance, on va se retrouver. Vous savez qu'actuellement, dans des pays comme le Danemark ou la Grande-Bretagne, on ne met pas en dialyse, en hémodialyse des insuffisants rénaux après 75 ans, après 78 ans. C'est voté par le Parlement, d'ailleurs, au Danemark. C'est peut-être pas plus mal que ce soit effectivement pas les médecins qui prennent la décision. Mais l'économique, les frais, ce que ça coûte, va faire que qui va choisir les moments où on va arrêter les aides et finalement entraîner la mort parce qu'il n'y aura pas assez d'aide ou entraîner la mort parce qu'il n'y aura pas assez de matériel ou parce qu'il n'y aura pas assez de soignants. Et je pense que c'est pour ça que la loi, il faut qu'elle soit rapidement là pour qu'au moins ce soit la volonté du citoyen qui soit écoutée et pas la volonté économique d'un directeur d'hôpital. Bon. Et là, l'autre problème tout de même, c'est que si on n'a pas de loi, on reste dans un flou de fonctionnement. Et moi, je crois que ça, c'est très, très mauvais. Et le pouvoir médical, il existe, contrairement à ce que vous dites. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est les médecins qui choisissent, c'est les médecins qui décident. Et on décide des tas de choses et on prend des tas de responsabilités. Puis heureusement qu'on les assume. Hein, on assume nos responsabilités d'indication opératoire, d'indication traitement, etc. Et on est formé pour ça et on essaye d'être bien formé. Et généralement, on n'est pas des salauds. Donc, on se débrouille comme on peut avec les gens qu'on a et avec les contraintes qu'on a. Mais je crois que le pouvoir médical est une réalité. Et puis, heureusement qu'il y a du pouvoir dans la médecine, du pouvoir de soigner et la connaissance technique. Le problème, c'est de savoir ce qu'on en fait après. Hein. Et dire on n'a pas de pouvoir, non, moi, je ne suis pas du tout d'accord. On a du pouvoir.
Bonsoir. Moi, je me présente, je suis jeune infirmière en troisième année. Si tout se passe bien, j'aimerais bien être infirmière dans 6 mois. J'avoue que ce soir, un peu moins. Ça fait un petit peu peur d'entendre tout ce qui se dit ce soir. Je trouve ça beau d'avoir des idées, des convictions, en se disant bah, « je voudrais mourir comme ça, je veux qu'on m'aide à mourir ». Maintenant, au bout du compte, qui est-ce qui va vous aider à mourir? Parce que vous avez envie de ça, le médecin va faire la prescription. Moi, je ne vais pas être infirmière pour faire une seringue, comme on dit tout à l'heure, mettre la seringue et pousser ça. Enfin, ma conception du métier, ce n'est pas ça, c'est soulager la souffrance de la personne. Et ce n'est pas lui administrer n'importe quel produit pour qu'il meure derrière.
Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait le docteur Séné à propos de l'intervention de monsieur et de son beau-père, qui montre bien que la loi est utile et nécessaire. C'est-à-dire que, effectivement, le fait d'entendre le médecin qui a bien un pouvoir médical dire dans le couloir « mettez-lui le cocktail alors qu'on n'en a pas discuté, qu'on n'a pas pris de décision, qu'il n'y a pas de directive anticipée », effectivement, c'est insupportable. Effectivement, ça prouve que ça se fait dans le dos et ça prouve qu'il faut une loi. Quoi.
Alors, oui. Moi aussi, je voudrais dire encore quelque chose. Je suis étranger, alors excusez-moi si je m'exprime d'une manière un peu bête. Mais la première chose que je voulais dire, que je voudrais demander surtout, c'est s'il n'y a pas une différence pour vous entre l'intention de mettre fin à la vie de quelqu'un et l'intention de soulager les douleurs. Et la deuxième question, celle-ci est peut-être un peu bête, l'autonomie, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que si quelqu'un vient et dit « coupez-moi le bras », est-ce que ça, vous le faites parce que vous suivez son autonomie? Merci.
Je peux répondre le temps de... Voilà. Alors, c'est peut-être effectivement des situations que nous avons du mal à transmettre et qui font une certaine cacophonie et peuvent entraîner un certain malaise. Je pratique également beaucoup vis-à-vis avec mes confrères oncologues, hein, je veux dire quasiment tous les jours, ou radiothérapeutes. Et un jour, on a été appelé pour un homme qui avait un cancer au niveau pulmonaire, effectivement... très métastasé, et on a été appelé pour une douleur insoutenable. Et mes collègues disent là, voilà, il est dénutri, enfin, il y avait tout un cortège de voilà, et ils avaient mis un traitement très adapté vis-à-vis de la douleur, et cet homme continuait à dénoncer sa douleur. Je n'ai jamais vu une douleur dénoncée comme ça, c'est-à-dire qu'il était capable de dire à 7h23, parce qu'il avait un réveil automatique, là, je ne sais pas quoi, j'ai une douleur qui commence là, puis elle fait 45 degrés, puis elle vrille, et puis là ça me chauffe, elle est à 5 sur 10, et puis là, enfin bref, au bout d'une heure et demie, on en finissait au niveau des orteils, et je ne comprenais rien du tout de ce qui se passait. Et on l'a suivi cet homme pendant plusieurs jours, peut-être que nous n'étions pas performants sur la douleur, peut-être qu'il était difficile de traiter sa douleur, bref, au total... On avait un petit effet, puis par contre cet homme disait bah, « je vous revois demain », etc. Très bien, d'accord, bon. Et puis un jour on arrive, cet homme était en train de faire la carpe, c'est-à-dire on se disait « ça y est, c'est foutu, là, il est en train d'agoniser, il était bleu marine, etc. » Alors c'est vrai qu'on a commencé par enlever les scopes, les machins, parce qu'il n'y a rien de pire dans ces moments de détresse de voir les scopes qui sonnent, etc. Il faut déjà que nous on fasse un peu de ménage pour détendre la situation. Et effectivement, nous avons poussé des tonnes. Mais j'ai pas honte, hein. Des tonnes de morphine et d'hypnovel. L'infirmière me dit non, moi là, ces médicaments, je pousse pas. Elle avait raison, parce que vous n'êtes pas infirmière pour faire exactement ce que vous dit le médecin. Vous avez, tout comme moi, la même intelligence pour dire oui, non, je peux, etc. Merci de garder cette jeunesse. Donc je reviens à ce patient. Bien sûr, c'était des tonnes importantes parce qu'il avait un traitement de base extrêmement lourd. Donc, ce qui fait que les doses qu'on pouvait lui administrer, hein, vous connaissez tout ça, étaient très fortes. Et quand je suis parti, je me suis dit, bon, cet homme, c'est fini, quoi. Dans une heure, il n'est plus là, etc. Parce qu'effectivement, je veux dire, avec son hypnovel, sa morphine, ça l'a shooté, c'est vrai. Il n'y avait pas l'intention de tuer cet homme. Mais on se disait, ouf, ça chauffe. Et puis l'après-midi, donc cet homme s'apaise. Voilà, voilà, au bout d'une heure, moi, je ne pouvais pas rester en permanence. Voilà, j'avais aussi d'autres patients. En tout cas, je le trouvais apaisé. Il existe des échelles pour évaluer la douleur, même chez les gens qui ne peuvent pas communiquer. Et donc, on s'est dit, bah, on va le laisser mourir. Et l'après-midi, je reviens pour voir un autre patient. Je dis, au fait, monsieur Intel, ça s'est passé comment? L'infirmière me dit, bah, allez le voir du coup dans sa chambre. Et moi, j'ai entendu dans ma tête, clac, 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 allez le voir sur son lit de mort. Oui, je rentre dans la chambre et je vois cet homme qui était en train de manger. Et je lui dis, il dit oui, docteur, j'ai cru que j'allais crever ce matin. Je lui dis, bah, moi aussi, hein. Moi aussi, là, j'ai un peu peur. Cet homme m'a appris une chose. D'abord, cette petite anecdote, c'est une anecdote, hein. Elle n'est pas comme ça tous les jours, parce que quelquefois, on va faire les médicaments, et puis les gens vont effectivement décéder. Il n'y a pas cette volonté. Il y a cette volonté, tout comme vous, et là je crois qu'on fait partie du même métier, de soulager. On a la même volonté, on met des mots un petit peu différents. Cet homme aurait pu mourir avec le traitement. Et effectivement, on aurait pu parler d'euthanasie active ou passive, j'en sais plus rien, moi, de tout ça. Mais en tout cas, là, il a passé le cap. Et cet homme, à partir de ce moment-là, on a pu parler de la mort, de sa peur de mourir, et plus jamais pendant un mois et demi, il a vécu 6 semaines, il nous a interpellés sur la douleur. Par contre, je peux vous dire que j'ai appris à philosopher sur la mort. Voilà. Mais c'est, voilà, quelquefois, c'est plus facile de dire « j'ai mal là » que de dire « je suis mal ». Voilà. Et, oui, allez-y.
Je vais rappeler des nécessités terre-à-terre. Nous sommes engagés à libérer l'espace Mendès France à 22h30. Je sais qu'une dame avait demandé la parole, donc je ne peux pas lui refuser... Oui, mais nous avons des contraintes. Et simplement, peut-être un tout dernier mot de ma part avant tout à l'heure de vous remercier pour votre présence et la souplesse et la courtoisie avec laquelle le débat s'est déroulé. Je voudrais tout de même que l'on ait une pensée pour les milliers, on n'en a pas beaucoup parlé, de personnes qui sont torturées contre leur volonté en étant maintenues en vie dans des situations insoutenables contre leur volonté. Ils n'ont pas pu prendre la parole, ils ne sont plus là, ceux-là non plus. Donc je voulais dire un mot en leur nom.
Bonsoir. Moi, j'ai fait les directives anticipées, mais ce n'est pas... C'est pour protéger mes enfants. Quand on a une maladie diagnostiquée non réversible et dont on connaît l'évolution au cours des années, il est raisonnable de penser à ce qui va se passer plus tard. Seulement, j'aurais aimé trouver un accompagnement à ce raisonnement, à cette démarche, au niveau des services concernés, c'est-à-dire les services de gériatrie, gériatrie aiguë, pôle de gériatrique, où j'ai trouvé un accueil, mais pas forcément d'explication et d'accompagnement tout au long du raisonnement que vous attendez et de la décision que vous allez prendre. Donc, j'ai trouvé une personne charmante, adorable, tout ce qu'on voudra, mais qui s'est dit, ben moi, la loi Leonetti, je ne la connais pas vraiment. Et moi, je dis, mais qu'allez-vous faire de ces directives anticipées? Qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce qu'on les met? Où est-ce qu'on pourra s'y référer quand le temps sera venu de s'y référer? Alors là, à l'hôpital, il n'y a rien qui centralise les directives anticipées. J'étais la première à faire cette démarche. Si je la fais, c'est que je sais où je vais aller dans quelques temps. Pourquoi? Et je la fais aussi pour que mes enfants n'aient pas à prendre la décision. Parce que moi, j'ai dû la prendre pour maman. Et depuis l'âge de 11 ans, je sais ce que c'est que les gens qui souffrent et que c'est insupportable pour l'environnement. Bon, évidemment, les accompagnements ont depuis des années bien évolué, mais il y a quand même des carences absolument insupportables dans les hôpitaux aujourd'hui où il n'y a pas de structure accueillante pour ce genre de choses. Les associations, c'est une nécessité, c'est très bien, mais l'État... L'hôpital public doit avoir des moyens pour recevoir ce genre de choses et avoir des références où on s'y retrouve. Je veux dire, quel que soit le lieu où vous soyez malade, que vous soyez aujourd'hui à Poitiers ou demain à Toulouse ou après-demain, je ne sais pas, on doit pouvoir avoir un centre de référence national.
Oui, ben ça va bien dans le même sens et ça continue aussi ce que vous disiez. On a parlé tout à l'heure de problèmes de société. On est effectivement dans une société où à partir du moment où on devient vieux, où on devient malade, on ne s'appartient plus. Et donc, il est fondamental que des décisions législatives soient prises puisque de toute façon maintenant, dès qu'on est malade, on est à l'hôpital. Dès qu'on est vieux, on est en maison de retraite parce qu'on n'a plus le droit, on ne peut plus finir sa vie comme on finissait avant dans son coin parce qu'on était en train de finir sa vie. Donc à partir du moment où on ne s'appartient plus, il est impératif que des textes existent pour protéger notre volonté.
Vous voyez, en toute honnêteté, on peut considérer que c'est la conclusion de notre réunion. En tout cas, merci pour votre présence, on ne peut plus nombreuse, et merci pour votre patience, et merci pour vos participations, et merci pour vos vivacités.